Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Le vrai sceau de Pâques » prêché le 2 avril 1961 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. La réunion au lever du soleil, frère Neville nous a prêché un message vraiment remarquable lors de la réunion de Pâques. Et bon, je sais que c'est terrible d'avoir à rester debout. Notre nombre de places assises ici est très limité. Et ils viennent juste de me demander s'ils pouvaient ouvrir l'arrière ici et placer des gens où il y a le baptistère. J'ai dit, c'est un bon endroit pour eux. C'est un très bon endroit pour eux. Et ainsi, ils vont tirer les rideaux dans quelques minutes et je pense qu'ils vont se tenir sur les bords autour. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas. Je vois qu'il est plein d'eau. Alors, ils devront probablement s'installer sur une planche. Mais je vois qu'ils sont en train d'en préparer une partie, donc ils vont probablement en ouvrir l'accès dans quelques minutes. Maintenant, Pâques est un grand jour pour nous tous. Nous aimons vraiment Pâques et bon, nous allons essayer de ne pas vous retenir trop longtemps étant donné les conditions. Mais je voudrais juste faire une annonce ou deux et c'est que nos réunions vont débuter dimanche prochain pour vous les gens de l'extérieur de la ville. Elles vont débuter à Bloomington dans l'Illinois sur le terrain du Collège méthodiste et elles se tiendront du dimanche au dimanche. Et puis, il y aura un petit déjeuner des ministres. Ensuite, je vais parler aux étudiants au collège un matin. Et il y aura un petit déjeuner là, si je comprends bien. Et puis, la semaine suivante, après, c'est le 23 jusqu'au dernier dimanche. Ou qu'est-ce que c'est, frère Neville? Oh, oui, eh bien, c'est déjà distribué, alors ils sont au courant. Oui, monsieur, c'est bien, c'est bon. Chicago, maintenant, il y a eu un... J'ai appris hier soir qu'ils ne peuvent pas avoir l'auditorium Lentech. Aussi, ce sera un auditorium situé à environ 10 minutes de route de l'auditorium Lentech. Ce sera un autre auditorium, si j'ai bien compris. Bien sûr, il y aura probablement des affiches qui vous indiqueront là où se tiendront la réunion. Bien, nous allons monter en Colombie-Britannique. Et puis, du 1er au 4 juillet, à Miami, en Floride. Alors, on se demande si on pourrait avoir une grande réunion sous la tente, que si cela arrive, je veux vraiment être là pour tous ceux d'entre vous qui le peuvent à Washington, D.C., dans la capitale, pour une réunion. Ce sera ma première réunion sous la tente. Vous savez, quand le Seigneur m'a promis qu'il me rencontrerait dans ce petit endroit dans la réunion et qu'ils sont en train de planifier maintenant, et ils ont appelé, ils ont dit, les hommes d'affaires, là, qu'ils allaient soit obtenir la salle des congrès où nous avons parlé, soit dresser une grande tente. Et dès qu'il a dit « grande tente », quelque chose m'est venu à l'esprit, c'est peut-être là que sera le lieu de rencontre au Capitole. C'est donc très, très bien. Nous verrons donc ce qu'il en est. Et nous vous tiendrons au courant un peu plus tard, alors que le Saint-Esprit nous guidera. Et je crois qu'ils ont ici des petits bébés qui viennent de l'extérieur, de la ville, et qu'ils veulent vous les dédicacer au Seigneur. Bon, ceci, beaucoup de gens les aspergent et ainsi de suite, et c'est tout à fait bien. Je n'ai rien contre ça. Cependant, l'aspersion n'est pas scripturaire pour un bébé ou un adulte. Vous voyez, l'aspersion n'est qu'une forme ecclésiastique qui a été adoptée premièrement par l'Église catholique, puis transmise dans le protestantisme. Mais il n'y a pas d'écriture pour l'aspersion d'un adulte ou d'un bébé. Et comme nous aimons nous en tenir strictement à l'Écriture, autant que possible, dans la Bible, ils ont amené des petits-enfants à notre Seigneur et il les a pris dans ses bras et les a bénis. Et il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Maintenant, c'est ce que nous essayons de faire, suivre les commandements du Seigneur de cette façon. Et nous prenons les anciens de l'Église et nous nous tenons autour et consacrons les enfants au Seigneur. Si notre pianiste veut bien jouer notre chant, amenez-les. Très bien. Et si ces mères qui ont les petits veulent venir s'avancer ici, Frère Neville et quelques anciens vont se tenir ici avec moi, s'ils le veulent, et nous consacrerons les 16 enfants au Seigneur. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. Amenez-les. Amenez-les petits à Jésus. Or, ce n'est qu'une forme extérieure que les mères consacrent leurs petits au Seigneur. Et en ce matin de Pâques, quel temps merveilleux pour le baptême ou la consécration, en ce début de saison et ce temps de la résurrection. Chantons-le à nouveau pendant que les autres s'avancent. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. Amenez-les. Amenez-les petits à Jésus. Maintenant, mes amis, je sais que chacun d'eux est le plus beau bébé du monde. Je le sais que je suis mieux que dire quoi que ce soit d'autre à ce sujet. C'est vrai. Et c'est ce que vous devriez ressentir. Ce sont de petits trésors que Dieu vous a donné la responsabilité d'élever. Et j'ai toujours dit et fait ce genre de remarque aux mères, nous connaissons par écrit 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais s'il y a un 5e évangile qui n'est pas écrit, c'est la mère. Elle les amène devant l'enseignement de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui les saisit. C'est donc à vous, mère et père, que revient la responsabilité d'élever ces enfants jusqu'au pour le royaume de Dieu. Et je suis sûr que c'est le désir de votre cœur. Nous élevons vers Dieu dans la prière et nous consacrons vos enfants à Christ. Les anciens et moi allons nous avancer et donnez-nous juste le nom. Et maintenant, je sais que ma femme est en sorte jalouse de moi dans ce travail. Alors, Lisa Ann Mitchell, un trésor dans les bras de quiconque, inclinons la tête. Père Céleste, en tant que tes serviteurs, nous élevons cette petite Lisa Ann Mitchell vers toi au nom du Seigneur Jésus. Nous la consacrons et réclamons sa vie pour le royaume de Dieu. Qu'elle vive et grandisse et qu'elle soit une personne merveilleuse pour le royaume de Dieu. Nous faisons ceci parce que nous avons reçu la commission de notre Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. H-A-E-J-Junior. Pendant qu'il fait une sieste, alors... Inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous élevons vers toi ce petit. Je prie que si Jésus tarde, tu fasses de lui un grand serviteur de Dieu. La maman te le remet et nous le présentons au nom du Seigneur Jésus pour que tu le bénisses, lui, à la maison d'où il vient, qu'il soit élevé à la gloire de Dieu comme nous le consacrons à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur, et votre petit. Je suis prudent dans ce travail parce que j'ai toujours peur de faire mal à ces petits êtres. Je vais laisser, vous pouvez prendre juste comme ceci, il est bien petit. Le nom? Deborah Meyer. La petite Deborah Meyer a les yeux brillants ce matin. Inclinons la tête. Père Céleste, nous t'apportons la petite Deborah Meyer. Nous te prions de bénir l'enfant. Comme nous le consacrons au Seigneur, comme le Père et la Mère la présentent maintenant, comme en commémoration de notre Seigneur Jésus qui a béni les petits et a dit « Laissez-les venir à moi ». Nous te le donnons, la petite Déborah, pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, lequel de ces autres petits bébés? Très bien, monsieur. Cette jeune enfant, Sarah Root. La petite Sarah Root Wheeler. Wheeler. Notre Père Céleste, nous t'apportons cet enfant chéri qui a été remis entre nos mains pour sa consécration et nous nous tenons la tête et le cœur inclinés pour te dire merci pour elle et prier pour que tu bénisses sa vie pour une vie à ton service. Nous te la donnons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. C'est terminé maintenant. Elle a regardé en arrière comme si vers moi pour dire autre chose. Très bien. Voilà une gentille petite fille. Maintenant, quel est son nom? Mika Ungreen. Quelle jolie petite chose. Comment vas-tu? Elle est méfiante et se demande ce qui se passe ici. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, en ce matin de Pâques, Nous te donnons cette jolie petite enfant en t'amenant des petits-enfants. Nous la consacrons, Seigneur Jésus, pour une vie de service. Accorde, Seigneur, qu'elle vive longtemps jusqu'à la venue du Seigneur, si c'est possible, et fais d'elle ta servante, comme nous la consacrons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est son nom? Oh, Melinda. La petite Melinda Ungreen. Ils veulent te voir par là. Melinda, tu es jolie. Oh là là. Inclinons la tête. Père divin, nous te remettons cette petite dame au nom du Seigneur Jésus. Nous te la consacrons, sa vie, pour une vie à ton service. Seigneur, je prie pour que tu l'épargnes et en fasses une de tes servantes pour te servir et pour accomplir ce pourquoi elle est née. Nous te la remettons pour qu'elle soit consacrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes ces jolies petites filles, voyons voir. Oh, ici, c'est elle la prochaine. Comment vas-tu ce matin? Quel est son nom maintenant? Jeanne? Jamie Lynn Dalton. Notre Père Céleste, nous t'amenons cette gentille petite fille et nous te prions de la bénir. Et nous demandons, Seigneur, que tu bénisses les foyers de ces enfants, qu'ils soient élevés dans la crainte de Dieu pour une vie à ton service. Nous te remettons cette petite chérie, comme nous la consacrons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Votre petit bébé est gentil. Comment vas-tu? Eh bien, tu peux presque me tenir, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-elle? Teresa Caber. Regarde ici, Teresa, n'est-elle pas jolie? Ce sont tous de si beaux petits bébés. Notre Père Céleste, nous te remettons cette petite fille chérie que ses bien-aimés nous ont présentée. Alors que nous te remettons cet enfant, nous la remettons pour une vie au service de Dieu. Nous la consacrons au service de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur, et bénisse ta petite pendant que nous prions. Les petits yeux bleus, puis bruns. Comment s'appelle-t-elle? Cynthia, la petite Cynthia. Regarde par ici, Cynthia. Ses jolis petits yeux. Notre Père Céleste, nous te remettons cette petite fille ce matin. Laisse-la vivre longtemps et qu'elle soit ta servante. Ses parents l'ont placée dans mes bras pour la consécration. Je l'amène devant les anciens et la place devant Dieu et la consacre au service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Il est en quelque sorte très petit, lui aussi, mais maintenant, Meda, tu devrais être ici pour tenir celui-là. J'ai toujours peur de les casser. Jacques Bliss. C'est un petit garçon très sage, n'est-ce pas? C'est ça? Notre Père Céleste, nous te remettons le petit Jacques, qu'il soit comme celui d'où son nom a été tiré, le Jacques dans la Bible, sans aucun doute qui a démontré de la sagesse dans le conseil du service du Seigneur. Je prie pour que tu le bénisses et pour une vie à ton service. Bénis le foyer d'où il vient et qu'il soit élevé dans la crainte de Dieu, alors que nous le consacrons au service de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Quel est le nom de cette petite fille? Viens ici, chérie. Hein? Tammy Brown. Tammy Brown. Sa mère et son père ont été baptisés ce matin. Une autre jolie petite fille. Inclinons la tête. Père, nous t'amenons cette petite enfant. J'imagine que ça ressemblait à cela quand les mères les amenaient à toi, quand tu étais ici durant ton voyage terrestre. Nous te la consacrons, Seigneur. Si j'ai bien compris, son père et sa mère ont été baptisés ce matin ici, dans ce précieux nom du Seigneur Jésus. Alors son foyer sera en ordre. Je prie pour que tu la bénisses et lui donnes une vie de service, alors que nous la consacrons à Dieu pour son service, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Merci. Oh, attendez, je suis désolé, je ne l'avais pas vu. Comment vas-tu? Eh bien, quel gentilhomme. Est-ce que je peux te prendre? Ça te dérange? Bien, comment s'appelle-t-il? Danny William Johnson. Oh là là, il a même l'air de prédicateur, n'est-ce pas? Père Céleste, nous t'amenons ce petit garçon. Il est peut-être trop jeune pour savoir de quoi il s'agit. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui regarde en bas et qui sait ce qu'il en est. Nous te le remettons, Seigneur, alors que sa mère l'a remis dans nos bras. Par la foi, nous venons au nom de Jésus-Christ et le réclamons comme un trophée de la grâce de Dieu et nous le consacrons à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, cher. Les avons-nous tous passés? Oh, quelle jolie petite fille qui s'en vient. C'est la plus jolie petite robe que tu portes et ce petit chapeau. Adler. Hélène Gail Adler. Quelle belle petite fille. Notre Père Céleste te remet ce trésor de la maison. Une petite fille qui est venue dans le monde. Et ses parents l'amènent pour qu'elle soit consacrée à ton service. Connaissant ce jour méchant dans lequel nous vivons, nous réclamons la vie de l'enfant comme un trophée pour Dieu. Nous la consacrons au service de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dieu te bénisse, chérie. Voici un petit garçon prédicateur. Deux d'entre eux sont-ils jumeaux? 5 et 8 ans? Quel est le nom de celui-ci? Johnny. De Richmond, en Virginie. Je pensais bien me souvenir de votre visage. On a eu un entretien ensemble quand le Seigneur était présent. Je n'arrivais pas à me souvenir de vous. Je connaissais votre visage et je n'arrivais pas à me figurer qui vous étiez. Très bien. Alors, nous savons qu'il va grandir dans la bonne maison. Il s'appelle Johnny. Notre Père Céleste, nous t'amenons ce petit garçon, Johnny, et nous posons nos mains sur lui. Car c'est ainsi que tu l'as fait. Tu as posé tes mains sur eux et nous le bénissons et réclamons sa vie comme un trophée de la grâce de Dieu, le consacrant au service de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dieu te bénisse, petit garçon. Lewis. Voici Lewis. Père Céleste, nous t'amenons ce petit garçon, Lewis, et le Père, pour qu'il soit consacré au service de la maison de Dieu. Comme nous pensons au jour passé, quand Anne est descendue dans le temple et a prié, et Dieu lui a donné un enfant, elle a ramené le bébé et l'a remis à Dieu. C'est ce que font ces gens aujourd'hui. Ils amènent leurs petits trésors et les consacrent. Et le prophète l'a pris, Père, et a élevé le petit garçon, et il est devenu un prophète. Ce matin, nous consacrons le petit Louis au service du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, fiston. Je suis heureux de vous voir ici, venu de Richmond, en Virginie, ce matin. Que Dieu vous bénisse. Voyons maintenant, c'est tout? Très bien. Oh, ce sont ces petits-enfants. Vous ne savez pas, on a peut-être consacré beaucoup de missionnaires ce matin. Et un prédicateur, on ne sait pas. Tout cela est entre les mains du Tout-Puissant. Je veux annoncer qu'au service ce soir, ici au tabernacle, il y aura un service de communion. Si vous n'avez jamais assisté à l'un de nos services de communion, nous observons aussi le lavement des pieds. Maintenant, il y a des mouchoirs posés ici sur lesquels je dois prier. L'un appartient à Frère Grimsley, notre frère ici à l'Église. Je ne sais pas qui sont ceux-ci. Nous en envoyons des centaines et des centaines dans le monde entier. Et maintenant, je veux prier pour eux après avoir commencé à prier pour les malades. Je veux parler premièrement pour quelques instants sur la suite du petit message de Pâques. Et maintenant, avant d'approcher la parole de Dieu, approchons-nous de lui par la prière. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants dans notre cœur ce matin pour ce matin glorieux. Et par-dessus tout, nous sommes reconnaissants pour ce que cela représente. La résurrection est la preuve scellée de notre religion. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a environ 2000 ans, et s'est présenté à son Église, vivant pour toujours. Après 2000 ans, nous sommes si heureux de jouir encore de cette communion avec les disciples d'un Christ ressuscité. Nous prions, Seigneur, que sa présence soit tellement ressentie dans ce bâtiment ce matin que chaque personne ici qui n'est pas sauvée va l'accepter comme son sauveur. Et ceux qui n'ont pas été remplis de son esprit, qu'aujourd'hui soit le jour où le Saint-Esprit va terminer son œuvre sur eux. Nous demandons que dans sa grande expiation qui a guéri les malades, qu'ils viennent si près des gens, que la foi soit prédominante, Seigneur, et qu'elle domine sur l'incrédulité, qui fera que les malades et les affligés sortent d'ici guéris et rétablis. Nous te prions, Seigneur, de bénir celui qui entreprend maintenant d'expliquer ta parole sur la résurrection. Dieu bénit tous les ministres partout, tes enfants, tes serviteurs, dans tout le pays, dans tout le monde. Et viens, Seigneur Jésus, rapidement, car nous voyons ces nuages flotter dans l'air. Seigneur, par cela, nous savons qu'il y a une grande chose qui se prépare. Saint ton peuple, oh, puisse-t-il prendre l'épée de la vérité, boucler leur armure, ajuster leur casque, qu'ils se couvrent de l'Évangile et par-dessus tout, qu'ils prennent ce bouclier de la foi et avancent. Accorde-le, Seigneur, car les nuages de guerre sont bas. Bénis-nous aujourd'hui, car nous savons que bientôt, pour autant que nous le sachions, nous verrons Jésus bientôt. Et nous prions pour être prêts à partir quand cette heure va venir. Puissions-nous préparer notre cœur et terminer cela, régler ça une fois pour toutes dans le service du matin aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Parle-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Maintenant, à vous qui voudriez lire avec moi dans les Écritures, allons dans Luc au chapitre 24. Et j'aimerais en lire une assez longue partie ici, si le Seigneur le veut, pour avoir un contexte pour ce que je vais parler pour les prochaines quelques minutes. Et maintenant, si vous le voulez, s'il fait chaud, je pense, ou quoi que ce soit d'autre, mettez-vous à l'aise autant que possible et je vais faire aussi vite que je peux. Et nous voulons vous dire ceci, que nous apprécions certainement votre fidélité de venir. Et quand, cependant, les gens essaient de dire que l'Évangile a perdu son attrait, et quand les gens viennent d'un bout à l'autre de la nation pour se tenir debout dans un endroit où leurs jambes font mal, dans une réunion du Seigneur, cela montre que Dieu a encore un peuple et qu'il y a encore un désir dans leur cœur de voir Dieu. Pourtant, l'Évangile, dans sa simplicité, aussi simple que l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ l'est, mais c'est la plus grande puissance qui ait jamais frappé la terre, l'Évangile de Christ. Et l'Évangile n'est pas seulement en parole, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Puisse-t-il nous accorder ces choses, telles que nous les lisons maintenant au verset 36 du chapitre 24 de Luc. « Tandis qu'ils parlaient, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Quand ils eurent parlé, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils, dans leur joie, ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Maintenant, si je dois donner un titre à ce sujet, j'aimerais prendre ceci, le vrai sceau de Pâques. Comment suis-je arrivé à penser à une telle chose? C'était il y a environ une semaine, alors que j'étais en route vers Georgetown, une petite ville située en dessous de New Albany, ici. Et il y avait des garçons qui étaient dans la rue recueillant des offrandes pour les sceaux de Pâques. Alors, j'ai commencé à penser aux sceaux de Pâques. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'un sceau de Pâques? Certainement que ça signifie plus que ce que pourquoi ces garçons prennent des offrandes, un sceau de Pâques. Et je me suis dit, que font-ils de ces sceaux et des contributions qu'ils ont reçues de ceux-ci et pour ceux-ci? Bien sûr, ces sceaux sont apposés sur des lettres et des choses, et c'est une offrande volontaire pour eux, et cela sert pour hospitaliser les gens qui ont la tuberculose et ainsi de suite, et pour les envoyer dans un hospice, un lieu de repos, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et je me suis dit, Pâques a sûrement quelque chose de plus que cela, un sceau de Pâques. Cela doit signifier quelque chose de plus que d'hospitaliser une personne pour qu'elle soit à l'aise, ce qui est très bien, je n'ai rien contre ça. Que Dieu les bénisse, c'est merveilleux. Mais il semble quand même que ce devrait être plus que ça, étant donné que Pâques signifiait tant pour l'Église chrétienne et pour notre héritage chrétien, le sceau de la résurrection. Et comment un petit timbre poste pourrait prendre sa place? Il ne le peut pas. Et j'ai commencé à penser à ça. Quel était le sceau de Pâques? Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de parler ce matin sur le sceau de Pâques. Or, Pâques et les sceaux, et ainsi de suite, c'est tout au long de la Bible. Nous les voyons, ils sont aussi vieux que la Bible. Nous les retrouvons même jusque dans le Jardin d'Éden, et puis nous découvrons que tout ce que nous trouvons quelque part dans la Bible, on le trouve d'abord dans la Genèse. Tout a commencé dans la Genèse. Et puis je pensais que ce que j'avais en tête comme sceau de Pâques, ensuite je me suis demandé pourquoi c'était si rejeté et comment les gens pouvaient le rejeter. Pourquoi a-t-il été si condamné? Et je me disais alors qu'il n'est pas toujours condamné, ce n'est pas tout le monde qui le condamne. Mais Dieu a fait un chemin tel que l'homme est placé dans une position où il est contraint de prendre une décision. L'homme ne peut pas vivre sur la terre sans prendre une décision. Dieu le contraint à le faire. Il doit prendre certaines décisions. Il vient un temps où vous devez prendre une décision concernant l'école, vous devez décider qui vous allez épouser et vous devez prendre des décisions pour différentes choses. Mais dans le Jardin d'Éden, où il n'y avait que deux garçons, l'homme a été contraint de prendre une décision. Et je pense que c'est fait pour qu'il montre son vrai jour, ce qu'il est, pour montrer ce qu'il y a en lui. Maintenant, nous découvrons que le temps est venu entre Caïn et Abel, où la décision devait être forcée, parce que le temps de l'adoration était venu et que chaque garçon avait préparé une façon d'adorer Dieu. Et si vous remarquez, entre le bien et le mal, il n'y a qu'un petit souffle de différence. Et le mal, dans les derniers jours, il a été prophétisé qu'il serait si proche du bien qu'il séduirait même les élus si c'était possible entre le bien et le mal. Or, comme les garçons s'approchaient de leurs autels et qu'ils adoraient, maintenant, je pensais alors à combien d'autels ce matin dans les églises où de belles fleurs sont placées sur les autels. Et c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais cela semble être à peu près là que l'adoration se termine. Le fait de mettre des fleurs sur l'autel ou une belle église ou de belles décorations ou quelque chose, et cela semble s'arrêter là. Et c'était comme ça, en quelque sorte, avec Caïn, parce qu'il a apporté les fruits des champs et a fait son service à Dieu. Et cela a été rejeté, parce qu'il n'était pas venu exactement de la manière que Dieu lui avait ordonné de venir. Mais il a fait son offrande et a tout fait religieusement, tout comme son frère, mais il a été rejeté. Et parce qu'il a été rejeté du côté spirituel, alors cela a fait naître en lui de la jalousie parce qu'il était avide. C'est dans l'homme, il ne peut s'empêcher d'être ce qu'il est parce qu'il est né dans cet état. L'homme est représenté au ciel comme un pécheur par un pécheur. Je parlais de cela il y a quelque temps et quelqu'un a dit, « Alors ce n'est pas juste. Si je dois être représenté par la désobéissance d'un homme, alors je n'ai aucune chance. » J'ai dit, c'est vrai, parce que tu es né pécheur, mais tu es représenté, tu es voué à la condamnation par représentation. Eh bien, ça a l'air très cruel, mais tournez-le de l'autre côté. Alors, nous sommes ordonnés à la vie éternelle par représentation. Là où l'un de nous représentait par la mort, un autre nous représentait par la vie éternelle, de sorte qu'il nous a ramenés de nouveau devant le trône. Chaque être humain arrive au même endroit pour faire son choix. Mais cette avidité qui a toujours été dans le bien et dans le mal qui essaie de renverser le bien, cela a commencé en Éden et a traversé les âges. C'en est arrivé au point où c'est entré dans les affaires nationales, c'est entré dans les affaires de l'Église, c'est entré dans nos foyers. L'avidité, essayer de gouverner ou de ruiner, essayer de dominer, de s'étendre. Et nous voyons la chose agir partout, et elle l'a toujours fait, la même chose en essayant de renverser ou de dominer. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu du temps des prophètes passés, j'en ai noté plusieurs ici que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais Dieu du temps des anciens prophètes, au milieu de tout ça, comme il l'avait fait dans le Jardin d'Éden, quand la véritable voix de Dieu et la véritable adoration de Dieu étaient condamnées et rejetées et tuées dans le Jardin d'Éden, et la voix de Dieu s'est faite taire par l'avidité et la jalousie, il en a été ainsi dans l'Église depuis lors. On essaie de taire la véritable voix de Dieu. Et si vous remarquez, dès que la voix d'Abel s'est fait mettre sous silence par la mort, Dieu a suscité Seth pour prendre sa place, ce qui n'était rien d'autre qu'une pré-Pâque, une pré-résurrection ou un remplacement jusqu'à ce que la résurrection vienne. Cela a duré un certain temps. Nous le voyons tout au long de l'Ancien Testament. Les prophètes. Dieu a gardé sa voix en vie par les prophètes. Ils ont prononcé la parole de Dieu et les ont lapidés. Et dès qu'ils en lapidaient un et s'en débarrassaient, Dieu en suscitait un autre. Et il lapidait celui-là et il s'en débarrassait, et Dieu en suscitait un autre. Il a toujours gardé son témoin en vie. Tout au long des âges, il a gardé sa voix en vie devant les gens, tout au long, depuis l'Éden. Et maintenant, nous découvrons que dès que Caïn s'est rendu compte qu'il avait fait ce qu'il avait fait, il est sorti de la présence de Dieu et il a été scellé, séparé de Dieu par une marque qui a été apposée sur lui. Il est sorti, dit la Bible, du Jardin d'Éden, par les portes du jardin à l'est de l'Éden. Il est sorti, scellé, marqué, parti hors de la présence de Dieu. Quelle affaire! Quelle chose terrible que Caïn, par jalousie et parce qu'il n'a pas voulu se réconcilier avec Dieu par la même voie appropriée que son frère était venu. Dieu a dit à Caïn, « Si tu adores comme Abel, tu feras bien. » Mais Caïn s'est contenté de dire, « Voici ce que j'ai rassemblé, c'est ce que j'ai, voilà ce que je te donne. C'est à prendre ou à laisser. Tu peux faire l'un ou l'autre. C'est comme tu veux. » C'est en sorte l'attitude des gens tout le temps dans la vie à l'Église, dans d'autres vies. Ils disent, si je vais à l'Église, j'aide l'Église, je fais ceci. Si Dieu ne peut pas accepter ça, c'est le mieux que je puisse faire, voyez? Mais ce n'est pas, toujours pas cela que Dieu exige. Dieu n'exige pas ça. Dieu exige une voie pourvue. Il a pourvu d'un moyen et il vous demande d'accepter ce qu'il a pourvu, voyez? Il n'a pas besoin de notre aide pour lui dire quoi faire et comment le faire. Il a tracé le chemin que nous devons prendre et les choses que nous devrions faire et comment nous devrions les faire. Et il n'a pas besoin de nos idées en cela du tout. Nous ne devons pas venir comme ça, mais nous constatons que l'homme est enclin à faire cela tout au long de l'âge. Mais Dieu a gardé sa voix vivante par ses prophètes et ainsi de suite, comme il vient tout au long des âges. Et nous le trouvons aujourd'hui. Et nous le trouvons dans la politique. J'ai ici des choses à dire sur la politique, sur comme nous pourrions constater, même en ce jour où nous vivons, les gens ont vendu leur droit d'aînesse pour la politique. Et si aucun d'entre vous n'a eu la bande sur laquelle j'ai parlé à Middletown, dans l'Ohio, dimanche, il y a une semaine, sur Jézabel et Achab, j'aimerais que vous l'écoutiez un de ces jours. Et comment cette nation, à cause de l'avidité et de quelques dollars supplémentaires et une idée plus populaire parmi les gens, ils ont absolument vendu Christ, tout comme Judas il y a 2000 ans, pour 30 pièces d'argent. Oh, c'est une chose terrible que de penser à la condition qui existe au sein de cette nation et de ces gens aujourd'hui. de penser qu'il y a bien des années, ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Mais aujourd'hui, ils sont si avides. Ils essaient d'obtenir plus d'argent. Ils essaient d'obtenir des temps plus faciles. Bien sûr, ça, c'est le non-chrétien. Le chrétien ne demande pas la facilité. Nous ne sommes pas. Il y a tant de promesses faites aujourd'hui parmi les gens chrétiens. Tant de ministres promettent aux gens une chose fausse. Si vous venez à Christ, tous vos problèmes sont réglés. Je vous le dis, quand vous venez à Christ, c'est là qu'il commence. C'est là que vous mettez un uniforme, prenez un fusil et entrez sur le champ de bataille. Cette route chrétienne n'est pas un lit de rose. C'est une bataille à l'heure même où vous commencez, jusqu'à ce que votre esprit soit libéré par la mort. Vous n'êtes pas à un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Ainsi, il nous est promis des choses. Et je deviens parfois, je n'aime pas dire ça, mais je le pense de tout mon cœur, que je deviens perplexe quand j'entends parler de foi super sensationnelle, de religion super sensationnelle. Et aujourd'hui, tout est devenu un super sensationnel, quelque chose. C'est l'homme super sensationnel. Et la télévision a ouvert la voie à l'aide des hommes dans l'espace et tout. Il y a un tas d'absurdités super sensationnelles. Oh, ils amènent ça même dans la guérison divine aujourd'hui, des guérisons super sensationnelles. Or, Dieu n'a pas de telles choses. Ils amènent souvent des gens sur l'estrade et des hommes doués, sans doute, mais avec une mauvaise compréhension de l'Évangile. Déversent de l'huile sur eux, prient, se tiennent là et les secouent jusqu'à ce que quelque chose arrive, ils guérissent. Et peut-être que cette personne vit dans le péché, ils retournent chez eux et s'aperçoivent que c'est revenu sur eux. Peut-être qu'ils étaient sous le coup d'une excitation à ce moment-là, que la foi de Dieu qu'ils avaient accumulée les avait guéris, mais quand ils se trouvent parmi les incroyants, ça revient à nouveau. Ça le fera à chaque fois. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la guérison divine. C'est des décisions claires et nettes pour Christ. C'est vrai. Je lisais tout récemment une lettre qui m'a été envoyée par l'Association luthérienne en Allemagne, où un frère avait séjourné et avait eu un service de guérison en Allemagne avec le parrainage de l'Église luthérienne et des pentecôtistes et ainsi de suite. Et cette copie de cette lettre a été écrite et il disait, « Vous prêchez cette guérison divine, que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de poser vos mains sur eux et ils ressentent quelque chose et ils sont guéris. » Il a dit, « Je ne suis certainement pas d'accord avec vous. » Il a dit, « Alors, qu'en est-il de la petite Deborah Statcliffe quand elle est morte là-bas? Une enfant parfaite et en bonne santé un jour, et quelques heures après, elle était morte. Et vous êtes tous allés là-bas et avez prié, et vous l'avez secouée, et vous l'avez oint et tout, pour la guérison, et il n'y avait pas de vie. Le bébé est resté allongé là. Il a dit, alors ils ont télégraphié à Frère Branham, et il n'a rien dit avant d'avoir reçu une décision claire et nette de Dieu, puis il est allé au nom du Seigneur Jésus pour prononcer la parole. Or, c'est ce dont nous avons besoin, obtenir de Dieu une décision claire et nette. C'est pour cela qu'il nous faut venir, c'est pour ça que nous baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est une décision claire et nette de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous restons avec les choses que nous faisons, parce qu'elles sont les ordres de Dieu et l'Évangile de Dieu. Et nous devons nous en tenir à cela tel que c'est écrit. Que vous soyez d'accord, qu'on vous déteste, quoi qu'il arrive, ça n'a rien à voir avec cela. Dieu veut des décisions claires et nettes. Et comment pouvez-vous le faire quand vous savez que vous avez tort pour commencer? Vous ne pouvez pas avoir une décision claire et nette de la part de Dieu. Comment pouvez-vous venir demander la guérison divine quand vous savez que votre cœur n'est pas droit avec Dieu pour le servir? Voyez-vous, vous voulez sortir et faire les choses qui font dans le monde. Vous ne serez jamais guéri comme ça, voyez? Vous devez venir pur devant Dieu et consacrer votre vie et votre cœur à Dieu. Et alors là, Dieu guérira. Et alors, ça durera parce que votre foi a été ancrée. Aujourd'hui, nous trouvons cette avidité même dans l'Église, dans la politique et dans les affaires nationales. Une nation, regardez ce qui se passe ici en Afrique. Regardez à cause de l'avidité, regardez ce qui se passe en Afrique. Pas seulement là, mais partout dans le monde. partout, parce que l'homme veut être quelqu'un d'important. C'est tout ce qu'ils ont, c'est ici sur la terre, où ils vivent comme ça. Si ceci, c'était tout ce que j'avais, je serais misérable. Je cherche une cité dont le bâtisseur et le créateur est Dieu. C'est là que nous amassons nos trésors, c'est dans ce but. Les fils de Caïn, ou plutôt les fils de Satan, ce sont les fils de Satan parce que Caïn était le fils de Satan. Ainsi, par conséquent, les fils de Caïn aujourd'hui, et vous dites, « En êtes-vous sûr, frère Branham? » Oui, je le suis, j'en suis certain. Eh bien, écoutez, Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, il a dit promptement aux chefs religieux, « Vous avez pour père le diable. » Pourtant, ils étaient pieux, ils étaient religieux, ils étaient érudits, ils avaient de grands bâtiments, de grandes églises, et ils avaient de beaucoup de savoir, et le sacerdoce, et des rangs, et ainsi de suite, mais ils n'ont pas reconnu qui était Christ. Ils n'ont pas reconnu leur jour. Et comme ils ont fait à l'époque, ils le font maintenant. C'est exactement la même chose. Ils ne réalisent pas dans quel jour nous vivons et les choses que Dieu fait. Mais nous voyons donc si ces conducteurs religieux, bon, le voici, si ces conducteurs religieux de l'époque étaient appelés fils du diable, nous savons alors que le diable, au commencement, était celui qui a inspiré Caïn à persécuter son frère et à le tuer. C'est la même chose qui s'est produite chez les mêmes conducteurs qui ont persécuté Jésus-Christ et qui l'ont tué. Ils ont été contraints de prendre une décision de la même manière qu'ils l'ont été dans le Jardin d'Éden. Ils ont été contraints de prendre une décision. Eh bien, qu'en est-il de ceci? Les fils de Caïn, les fils de Satan. Vous dites, est-ce que ça s'applique aux nations? Lorsque Satan a amené Jésus au sommet de la montagne pour le tenter, il lui a montré tous les royaumes du monde. Maintenant, c'était tout ce qui était et tout ce qui serait, tous les royaumes du monde entier. Et il a dit, « Ceux-ci m'appartiennent et j'en fais ce que je veux. Je peux les faire se battre, je peux les faire faire ceci ou n'importe quoi. » Et il a revendiqué les royaumes du monde. Alors, nous pouvons voir comment l'avidité et l'égoïsme entrent dans la politique. Voyez? Nous pouvons alors voir où c'en est dans l'Église et parmi les conducteurs de l'Église, où l'avidité et l'égoïsme entrent dans l'Église. Maintenant, observez que cette même vieille avidité qui a commencé dans le Jardin d'Éden, qui a mis le mauvais sceau sur l'un et le bon sceau sur l'autre, a continué tout au long jusqu'à l'époque de notre Seigneur Jésus. Quand il était ici sur la terre, on l'a passé en jugement par ce qu'on appelait la justice, une cour de justice. Quelle moquerie injuste c'était! Ils n'ont même pas pu trouver une seule chose contre lui. C'était le côté politique. Ils ne pouvaient rien trouver contre lui, au point où Pilate lui-même a dit, « Je ne trouve aucune faute en lui. » Et ensuite vient l'Église. Elles sont maintenant contraintes de prendre une décision. Après que le monde politique se soit départi de lui pour coopérer avec ce que même esprit qui était dans l'Église, qui était dans la politique, pour montrer que si Satan perdait sa bataille ici, il y avait encore quelque chose en réserve, il pouvait se tourner vers l'Église et ils l'ont crucifié parce qu'il était contraint de prendre une décision. Ils ont dit, « Donne-nous Barabbas à la place de Jésus. » Voyez comme ils se sont pris. C'est sous nos yeux aujourd'hui la même chose. Cela a été et sera toujours contraint de prendre une décision. Maintenant, lorsqu'ils l'ont forcé à prendre une décision, Pilate savait dans son cœur que lorsqu'il le relâcherait Jésus à l'Église, il savait que l'Église était celle qu'il avait livrée pour être crucifié. Et s'il le relâchait à l'Église, l'Église allait le crucifier. Alors, Pilate n'a pas d'excuse. Il a pris de l'eau et a essayé de laver le sang de Christ de ses mains, mais il ne le pouvait pas le faire. Depuis ce jour-là, ici en Suède, ou plutôt en Suisse, où Pilate a connu sa fin, des années plus tard, il a perdu la tête, il est devenu fou, il a plongé dans une mare d'eau et est mort. Il y a une légende qui dit, à 3 heures de l'après-midi, il y a de l'eau bleue qui remonte du fond de cette mare. Les gens du monde entier se rassemblent là pour voir ça. À 3 heures, cette eau bleue d'aspect indigo remonte du fond et de quelque part et fait un remous en surface et redescend pour montrer qu'aucune eau ne peut laver le sang de Jésus-Christ des mains d'un homme. Il est coupable. Et chaque homme sur les mains duquel Christ a été placé, il n'y a aucun moyen de s'en laver. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'accepter et d'y croire. Les fils de Satan, les fils de Caïn, persécutent les fils de Dieu. Ils les mettent à mort. C'est ce qu'ils ont fait à Abel. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. C'est ce qu'ils ont fait aux prophètes. C'est ce qu'ils ont en eux de faire de nouveau, et ils le feront dès que le chemin leur sera ouvert pour le faire. Souvenez-vous, nous sommes en quelque sorte mêlés et avons perdu notre temps, et nous avons détourné les gens de la voie de l'Évangile et de l'histoire de ce qui va arriver. Et nous voilà de nouveau confrontés à cela, ici même dans notre pays, et nous ne pouvons rien y faire. Mais là, vous dites, frère Branham, pour quelle raison parlez-vous contre cela? Pas plus que je ne pourrais arrêter le péché. Je peux élever ma voix contre cela. Et c'est exactement ce que je fais maintenant contre le péché et contre les mauvaises choses. Nous avons mal agi et nous allons récolter ce que nous avons semé exactement. Depuis Middletown, ils en ont eu une audience. Ils ont réuni un prêtre, un prédicateur baptiste et un prédicateur presbytérien ensemble pour une consultation sur les fonds de cette école. Et le prêtre était d'accord que les protestants payent les mêmes impôts que les catholiques et que les fonds devraient être donnés aux deux parties. Et il a dit, ce que nous devrions faire, c'est de n'avoir qu'une école, une école catholique. Ou bien sûr, attraper ses enfants quand ils sont petits. Oh, quelle affaire! Et comment les gens se sont-ils assis là et ont endossé cette chose juste à cause de la politique? Comment? Je ne comprends pas, mais nous en sommes là en ce matin de Pâques. Et la chose même, la raison même pour laquelle nous sommes venus dans ce pays pour devenir Américains, c'était pour la liberté de religion contre ce système de Jézabel. Nous avons fait demi-tour et l'avons élu sur l'estrade de la Maison-Blanche. La raison même pourquoi nous sommes venus ici pour être libérés, oh, c'est une condition terrible dans laquelle nous vivons maintenant. Vous le savez, l'Église spirituelle, parce qu'elle s'est vendue, ils l'ont mis à mort. Ils l'ont tué comme ils l'ont fait avec le fidèle Abel. Pourquoi Abel a-t-il été tué? Parce que dans son cœur, il avait la révélation de ce que Dieu accepterait pour racheter l'homme du péché. C'est la raison même pourquoi ils ont mis Jésus à mort, parce qu'il avait en lui la révélation de ce que Dieu exigeait pour remédier au péché. C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui ils sont contre la vraie Église du Dieu vivant, parce qu'elle prêche le remède au péché, les choses qui font que les gens vivent différemment, agissent différemment. Et quand vous suivez ça jusque dans l'Église où nous vivons aujourd'hui, dans nos groupes pentecôtistes, ils y sont retournés directement et ils font la même chose dont ils avaient été libérés. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Un remède contre le péché. Ça s'est introduit très subtilement. Ça s'est introduit comme sous un déguisement d'une vraie religion pentecôtiste. Mais si ça ne produit pas ce genre d'objet, si ça ne produit pas ce genre de tissu, il y a quelque chose qui cloche avec ça quelque part. Comme une citrouille peut-elle produire des pastèques? Elle ne le peut pas. Comment une vigne peut-elle produire des pêches? Elle n'en produit pas. Si elle produit des pêches, c'est qu'il y a une vie d'un péché dans la vigne. Et c'est ce que nous savons aujourd'hui. Si l'Église, peu importe combien elle professe à être l'Église du Dieu vivant, si elle ne produit pas Dieu par le bon vieux salut, si elle ne ramène pas les gens à un réel salut de Dieu et que cela paraît parmi eux, Dieu vit parmi eux. Alors, c'est la mauvaise chose. Ce ne produit pas la vie de Christ. Elle dit que ça produirait. Christ est mort au calvaire. Comment il est monté sur cette croix? Je lisais un petit livre il n'y a pas longtemps à propos d'une sorte de recherche. Et dans cette recherche, j'ai trouvé quelque chose de très surprenant. Je me suis assis, j'ai déposé le livre, j'ai levé les mains et loué Dieu. Je me suis levé et j'ai marché un peu, puis je me suis assis à nouveau pour le relire. J'ai pensé Oh, est-ce ainsi que sur cette même colline où Jésus a été crucifié, Adam est mort et a été enterré sur cette même colline où Jésus est mort. Il a été enterré sur la même colline où Adam est mort et il est mort à Golgotha. Il a été enterré à Golgotha. Et j'ai pensé, comme c'est approprié, que ce soit vrai ou pas, disons que c'était vrai. Alors, le premier Adam est mort et a été enterré et est encore là dans la poussière parce qu'il représentait le monde et les gens qui péchaient. Mais le second Adam, qui était le Dieu du ciel, quand il est mort à Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour le retenir là. Il est ressuscité le troisième jour et est vivant à jamais. Mais le problème du péché a été réglé. Dieu a réglé le problème du péché là, au calvaire. C'est là que la dette a été payée. Quand cet Adam, ce second Adam, est mort, il a payé la dette du péché pour la race humaine. Et le monde l'a mis dans une tombe et l'ont scellé dans cette tombe. Et ils feraient pareil aujourd'hui. Ils essaient de faire pareil aujourd'hui. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Le monde essaie, et ça va continuer d'empirer, de sceller de nouveau Christ dans la tombe. Ils essaient de faire de lui un Dieu historique, un Dieu qui a marché dans les jours passés et a donné la puissance aux disciples pour guérir les malades et pour chasser les démons. Mais qu'ont-ils fait dès qu'ils ont pensé s'être débarrassés de lui, comme Caïn l'a fait lorsqu'il pensait s'être débarrassé d'Abel? Ils l'ont scellé dans une tombe et l'ont laissé là. Et aujourd'hui, ils essaient de laisser Christ dans une tombe. Mais oh, qu'est-ce qu'un matin de Pâques a produit? Un matin de Pâques a ruiné toute leur théologie. Et quand un matin de Pâques est venu pour un peuple, une église ici, 1900 ans plus tard, cela a ruiné leur théologie. Il n'est pas mort. Il est vivant pour toujours. Ils ne peuvent pas le garder dans une tombe. Vous pouvez le mettre dans une tombe méthodiste ou une tombe baptiste ou une tombe presbytérienne ou ce que vous voudrez, mais il est ressuscité de cette tombe et il est en vie aujourd'hui. J'avais une tombe baptiste. Et vous aviez peut-être une tombe méthodiste. Mais un jour, Jésus est ressuscité de là, d'un Dieu historique à un Dieu vivant, présent, vivant pour toujours. Quelque chose s'est passé ce matin de Pâques-là. C'était un sceau satisfait. Quand ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont mis un sceau romain sur là-dessus. Mais quand cette heure est arrivée, quand cette heure est venue, il y est resté pendant un certain temps, c'est vrai. Il y est resté 3 jours et 3 nuits. Mais à l'heure fixée, c'est ce que l'Écriture dit. Alléluia! À l'heure où il a dit, « Détruisez ce corps, je le relèverai en 3 jours. » Alors, il n'y a rien qui puisse arrêter cette écriture. Cela doit arriver. Et ce sceau a été brisé. Alors, il est ressuscité, le même Jésus, vivant de nouveau pour toujours. Et depuis environ 1900 ans, ou peut-être 14 ou 1500 ans, les églises l'ont scellé. Mais il a dit, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, rien ne va empêcher ça. Il y aura de la lumière au temps du soir. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Peu m'importe le nombre de sceaux que vous essayez de mettre dessus, Dieu va briser tous les sceaux. Il a brisé le sceau de la tombe, il a brisé le sceau de l'enfer, il a brisé le sceau de la mort, il a brisé le sceau du sépulcre, il s'est levé pour toujours et a triomphé du sépulcre, de la mort, de l'enfer, des tombeaux et de tout ce qui était fait de main d'homme pour montrer qu'il était Dieu et qu'il ne pouvait plus être scellé loin des gens. Dieu pour toujours. Rien ne pouvait le retenir. La tombe ne pouvait pas être creusée assez profondément. L'enfer ne pouvait pas être assez chaud. Oh, rien ne pouvait le retenir. Il a brisé tous les sceaux avec ce grand sceau de Noël, ou non, pas le sceau de Noël, mais le sceau de Pâques par lequel il a été scellé. Et il a dit, « Le même sceau que je porte, vous le porterez aussi pour cela. Et ce sceau que je porte, il fera la même chose quand vous serez scellés. Car celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. » Comment allez-vous empêcher ça? Qu'allez-vous faire? Que peuvent faire les gens à ce sujet? Vous pourriez, vous êtes contraint de prendre une décision, de décider quoi faire à ce sujet. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous voyons qu'aucun sceau ne pouvait le retenir. Il est ressuscité. Dieu a brisé le sceau de la tombe, brisé le sceau de la mort, brisé le sceau de l'enfer, brisé le sceau du sépulcre et en est sorti vainqueur. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce grand sceau qui était à l'intérieur de lui, ils ont pu détruire le corps, mais ils n'ont jamais pu détruire ce sceau. Ainsi, Dieu a donné à l'Église un sceau qui ne pourra jamais être détruit. Quand ils ont détruit Abel, il a suscité Seth. Quand ils ont détruit un prophète, il en a suscité un autre. Ils ont continué de détruire, mais Dieu leur donne quelque chose là qu'ils ne peuvent pas détruire. C'est l'Esprit surnaturel, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et il est infaillible et impérissable. Il ne peut pas être détruit. Il vivra encore et encore et encore. Et parce qu'il vit, nous vivons avec lui parce que nous sommes scellés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Aucun moyen d'être détruit ou périr. Mais nous avons la vie éternelle. Amen. Dieu qui déchire tous ses sceaux. Il a aussi brisé un autre sceau dont je veux parler ici, qui se trouve dans l'Exode. Mais je n'aurai pas le temps de prendre les Écritures, mais ça se trouve dans Exode. Quand l'homme a péché et s'est séparé de la présence de Dieu et qu'il est venu pour adorer Dieu, il y avait un voile suspendu entre les saints et le Saint des saints. À l'intérieur du Saint des saints se trouvait la gloire de la Shekinah. Il ne leur était pas permis d'y entrer. Il ne leur était même pas permis de le regarder. Mais un homme qui entrait devait être oint une fois par an, habillé correctement, avec du sang sur lui, du sang dans la main, du sang dans un récipient pour l'aspersion du propitiatoire. La gloire de la Shekinah était si grande qu'il a perdu son bâton là une année. Il est sorti sans trouver, laissé, apporter son bâton. Et quand il y est retourné, la chose était déjà revenue à la vie et avait bourgeonné. Les fleurs le recouvraient parce qu'elle se retrouvait dans la présence de la gloire de la Shekinah. Mais il y avait un voile suspendu là, entre les deux, parce que les gens avaient péché. Mais ô frère, quand cela a été aspergé ce jour-là par le sang de Jésus-Christ, un esprit de Dieu a déchiré le sceau du haut jusqu'en bas et a racheté l'homme. N'a pas gardé toujours l'homme éloigné de la présence de Dieu, mais il l'a ramené dans la gloire de la Shekinah, dans la présence du Dieu, afin que lui, sa vie morte, Jésus a dit, s'ils ont fait cela à un arbre vert, que feront-ils avec un arbre sec? Et s'ils lui ont fait cela à lui, qui était l'arbre vert et de la vie, qu'est-ce que ce sera pour le vieil arbre formaliste mort qui n'a pas de vie? Voyez, quand la colère de Dieu sera déversée, comme un vieil arbre formaliste mort pourrait-il le supporter alors que l'arbre vert, cela avait même fait périr l'arbre vert et l'avait envoyé en enfer? La colère de Dieu déversée à cause de la désobéissance, à cause du péché, a envoyé l'arbre vert en enfer. Que fera-t-elle avec un arbre sec quand elle le frappera? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? Cette personne qui rejette la voix, cette personne qui rejette, connaît mieux cette personne qui, à qui cela a été révélé et qui refuse toujours de marcher dans la voie de Dieu. Qu'arrivera-t-il à cette personne? Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Il a brisé le sceau qui nous séparait de la gloire de la Shekinah parce que le péché n'était plus. Et maintenant, le sceau est un signe d'une œuvre achevée. Et nous savons qu'un sceau, comme si vous scellez un wagon de marchandises, eh bien, il y met tout le travail, il y range tout, et ensuite il est scellé jusqu'à sa destination. Tout sceau est une œuvre achevée. Quand vous rédigez un document, il est scellé une fois terminé. On ne le scelle jamais avant qu'il ne soit complété. Or, le sang des boucs et des génisses et ainsi de suite ne pouvait enlever le péché. Mais quand cela a été achevé au calvaire, le péché a été enlevé. Maintenant, regardez bien. Au Jardin d'Éden, pour empêcher les gens de retourner à cet arbre, Dieu y a placé un ange en tant que sceau avec une épée qui tournoyait dans toutes les directions pour garder cet arbre. Et quand il a fait son adoration et qu'il est venu, rappelez-vous, qui était à cet arbre? Qui était cet arbre? C'était Jésus. L'arbre de la mort était votre mère. Elle vous a introduit ici dans la vie naturelle. Christ est la naissance par la vie spirituelle. Tous ceux qui vivent par la femme meurent. Tout ce qui est né de l'homme vit. Tout ce qui vient de la femme est naturel. Tout ce qui vient de l'homme est spirituel. Par l'homme ici, l'homme Jésus-Christ. Et il veille sur l'arbre, le garde. Il n'y a pas de retour parce qu'aucune offrande n'est appropriée pour enlever le péché. C'est pourquoi, lorsqu'ils venaient pour adorer, la gloire de la Shekinah était derrière le voile, scellée, inaccessible pour eux. Elle a été scellée d'eux depuis le Jardin d'Éden. Mais quand le jour de la Pentecôte est venu, frère, lorsque Jésus est mort au calvaire et a achevé l'œuvre, il n'a pas scellé l'homme à l'extérieur, il a scellé l'homme à l'intérieur avec lui-même. Et maintenant, nous sommes scellés et enfermés dans la présence de la gloire de la Shekinah. Non seulement nous sommes scellés, mais nous sommes scellés dans l'éternité. Amen. Oh, j'aime ça. Scellés à l'intérieur maintenant. C'est le vrai sceau de Pâques. Car par un seul esprit, nous sommes tous scellés dans un seul corps. Vous dites, est-ce que le Saint-Esprit est un sceau? Éphésiens 4, 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » C'est le véritable et authentique sceau de Pâques. Il montre que le péché a été payé pour vous et que Dieu vous a accepté et vous êtes scellés en Christ par le Saint-Esprit. Le péché n'est plus. Le sceau éternel a été achevé. Et maintenant, nous sommes ressuscités aujourd'hui. Pourquoi pouvons-nous passer de si bons moments dans les choses de Dieu? C'est parce que nous sommes ressuscités. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Aussi, nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Oh, remarquez-vous, pas scellés de cette façon, mais scellés à l'intérieur. Oh là là! Si seulement l'Église pouvait le voir, voyez, nous ne sommes pas scellés à l'extérieur, nous sommes scellés à l'intérieur. En ces jours-là, quand le péché était une abomination devant Dieu et qu'il n'y avait pas d'expiation pour l'enlever, nous avions été scellés et mis à part, loin de cela. Maintenant, quand cela s'est déchiré en deux et que ce sceau a été brisé par une offrande pour le péché fait de nous, maintenant, nous sommes baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur. Nous sommes ressuscités, nous sommes maintenant ressuscités, déjà ressuscités. Comment savez-vous? La Bible le dit. Amen. Nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec lui dans la résurrection spirituelle. Que signifie le mot vivifier? Vivifier signifie résurrection. C'est vrai. Nous sommes déjà ressuscités en ce moment même, assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, jouissant du sceau de Pâques. Amen. C'est le véritable sceau de Pâques de Dieu. Comment pouvons-nous, par un seul esprit baptisé dans le corps et scellé éternellement? Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. D'où avons-nous été tirés? D'une vie de péché. Nous étions pécheurs et nous aimions autrefois les choses du monde. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été ressuscités, mais leur vie ne le démontre pas. Votre vie prouve ce que vous êtes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, a dit Jésus. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu s'appuyer sur le fait que parler à un homme en langue et dire qu'il a le Saint-Esprit, nous ne croyons pas cela. Il n'y a aucune écriture pour ça. Non, monsieur, les hommes parlent en langue et continuent à vivre comme le monde. Et les femmes parlent en langue et se coupent les cheveux, se maquillent. Ah! Vous ne pouvez pas dire que c'était le Saint-Esprit, certainement pas, certainement pas, certainement pas. Un homme fume des cigares et va vivre avec la femme de son voisin, court partout et se comporte n'importe comment et dit qu'il est le Saint-Esprit. Non, non, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un arbre corrompu ne peut porter de bons fruits et un bon arbre ne porte pas non plus de fruits corrompus. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, le vrai sceau de Pâques de Dieu. Nous sommes scellés dans le corps de Christ, éternellement scellés. Non pas scellé pour une période de temps, mais pour l'éternité. Et maintenant, cette personne qui a reçu cela est ressuscitée des morts d'une vie de péché. Qu'est-ce que c'est? Son esprit a été ressuscité. Ses ambitions sont élevées. Sa vie a été ressuscitée. C'est une nouvelle créature. Et il se rassemble avec ses concitoyens, comme nous le faisons ce matin, pour prier les uns pour les autres, pour s'entraider, pour s'encourager les uns les autres, pour s'asseoir et se rassembler dans les lieux célestes en Jésus-Christ, scellés par le Saint-Esprit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit, dit l'Écriture. C'est l'Écriture. Maintenant, vous voyez que nous sommes scellés par le sceau de Pâques, le sceau de Pâques de la résurrection qui a confirmé que sa vie et ce qu'ils avaient dit était vrai. Maintenant, nous voyons que c'est une œuvre achevée, c'est un produit terminé. La résurrection de Dieu est un produit terminé. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu d'un produit terminé. Maintenant, nous venons à Christ. La première chose que nous faisons, nous sommes justifiés en croyant en lui. Quand nous faisons cela, alors nous réalisons que nous avons mal agi. Nous demandons à Dieu de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous purifier de notre vie de péché. Martin Luther, la justification, son message. Alors vient Wesley avec la sanctification. Et puis quand tout est complété, que son Église est complétée, quelle est la prochaine étape? Une œuvre achevée. Une œuvre achevée. Et elle le sceau. Que l'Église a été complétée, comme dans la pyramide. Remarquez sur un billet $1. J'y ai fait référence. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ici au tabernacle ou pas. Remarquez sur le billet $1, on l'appelle le grand sceau. Maintenant, comment pourriez-vous dire que les États-Unis pourraient reconnaître que là-bas, en Égypte, ils ont le grand sceau et voici le sceau des États-Unis de l'autre côté, un aigle? Pourquoi aurait-il été contraint de mettre là un grand sceau, le grand sceau? Parce que si vous remarquez juste derrière, au-dessus de la pyramide, il y a un petit bloc, et ce petit bloc est la pierre principale. Et cette pierre principale n'a jamais été posée sur la pyramide. Le sommet est ouvert, si vous y êtes déjà allé. Par la grâce de Dieu, j'y suis allé. Donc, il n'y a pas de pierre au sommet de la pyramide. Qu'est-ce que c'est? Enoch l'a construite avant le déluge. C'était un mémorial. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas été détruite pendant le déluge. Rien ne l'a détruite parce que c'est un mémorial. Maintenant, si vous remarquez, tout en bas, c'est large. Puis ça devient de plus en plus en minorité, puis un peu plus, jusqu'à la pierre principale. C'est l'âge luthérien, la justification dans l'Église, la sanctification, puis le baptême du Saint-Esprit. Mais à mesure qu'elle prend forme vers le sommet, elle passe de l'âge luthérien à l'âge de Wesley, puis dans l'âge pentecôtiste. Mais après avoir quitté l'âge pentecôtiste, elle continue de se former jusqu'à arriver à un endroit où toutes ses pierres sont si ajustées que même une lame de rasoir, elle pèse des tonnes et des tonnes là-haut, comme ils ont fait pour les soulever. C'est encore un mystère pour l'homme. Mais ils prennent une lame de rasoir et ils la font suivre tout au long. C'est tellement bien ajusté qu'on ne peut même pas y passer une lame de rasoir là où il y aurait dû avoir du mortier. C'est à ce point que les pierres sont si parfaitement ajustées. Et maintenant, quand cette pierre principale, à laquelle les pierres vont s'ajuster ainsi avec une angle telle que la pierre principale va former une pointe et se poser directement dessus, cela n'aura pas besoin de mortier. Ça va s'ajuster parfaitement. C'est ce que Dieu fait à son Église. Il perfectionne les gens et les rend si parfaits que lorsque la pierre principale, Christ, va venir, elle va s'ajuster à tout le bâtiment et puis il y aura une résurrection de toute la chose. L'Église va monter. La pierre principale. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous réalisons maintenant que Jésus, le corps de Jésus, a été enlevé lors de la résurrection. Nous savons aussi que la Bible parle de trois cieux. Nous savons le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Je crois que c'était Paul qui a été ravi au troisième ciel et a vu les choses qui n'étaient pas permis pour lui d'en parler. Or, le premier ciel est appelé dans l'Écriture comme les nuées. En d'autres termes, ici-bas, ici, sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui vient d'en haut, au-dessus des nuées, descend dans l'Église, c'est un lieu céleste. Alors, le deuxième ciel est considéré comme le système solaire. Et le troisième ciel va au-delà de ça. Maintenant, il se trouve que nous pensons, regardons cela une minute. Bon, Einstein a prouvé par la science que si deux objets venaient l'un vers l'autre, comme deux voitures qui viennent à sens inverse sur la route, et s'ils arrivaient assez vite, maintenant, il faudrait qu'elles aillent vraiment très vite, comme 1 milliard de milles par seconde, mais elle pourrait se traverser sans jamais rien perturber. La vitesse le ferait en les faisant passer l'un à travers l'autre sans rien perturber. Bon, maintenant, si vous remarquez, j'étais ici il n'y a pas longtemps au Mont Palomar, en Californie, et j'ai remarqué ce télescope qui peut voir 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Maintenant, pensez-y, 120 millions d'années-lumière dans l'espace, combien de milles ça pourrait donner, voyez? Mais pourtant, le ciel est tellement de milliards et de milliards et de milliards d'années-lumière au-delà de ça qu'on n'y songe même plus. Comment y arriverons-nous? C'est la vitesse. Ce sera comme par la pensée. C'est si rapide, ce sera plus rapide. Si vous pensez au ciel, vous y seriez aussi vite. Jésus, après qu'il a été ressuscité, À travers les murs et les portes, il s'est tenu debout, a mangé du poisson bouilli et un rayon de miel. Alléluia! La vitesse! Aussitôt que la vie est sortie de ce corps, nous sommes dans la présence de Dieu là-bas. Nous ne connaissons que les pieds, les pouces, les mètres et les milles, et ainsi de suite. Nous sommes liés à ce système terrestre. Mais quand on va partir d'ici, frère, oh là là là, quel temps! L'autre soir, en parlant d'Abraham et sa postérité après lui, comment Dieu l'a montré par Abraham, la façon dont il a justifié Abraham au chapitre 12 de la Genèse et dans le jusqu'au chapitre 16, comment il a confirmé l'alliance par la sanctification. Au chapitre 17, il l'a laissé boire de son sein, puisant dans le Saint-Esprit. Et puis, il l'a confirmé ou l'a placé, comme vous m'avez entendu prêcher le sermon sur « Écoutez-le ». Il a fait sortir d'Abraham et a changé son nom d'Abraham à Abraham et en lui donnant une partie de son nom, Elohim, H-A-M. Puis, nous découvrons qu'après cela, il est apparu à Abraham. Maintenant, à sa postérité, regardez comme il a fait la même chose à la postérité. La semence d'Abraham vient par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la manifestation de son nom, la révélation de qui il est, cette révélation de qui, Jésus-Christ, le baptême en son nom, et ainsi de suite, cette révélation qu'il partage son nom avec son Église, qu'il les a appelés. Ensuite, qu'a-t-il fait dans cette même Église qu'il a appelée par son nom, le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu de la même manière qu'il a fait avec Abraham, en étant capable de discerner l'Esprit derrière lui. Voyez? Il est apparu dans ce même nom, dans cette même chose, sous la même forme. Nous sommes juste au bout du chemin. Remarquez maintenant ce qui s'est passé. Quand il a fait cela, c'était le dernier signe qu'il a donné à l'Église avant que le changement vienne à l'Église, à Abraham et à Sarah. Maintenant, lorsque l'ange a parlé du mystère, la femme, l'Église, ce qu'elle représentait, elle avait du mal à le croire. Elle a juste ri en elle-même. Voyez, elle avait 100 ans. C'était terminé entre elle et Abraham comme mari et femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Les relations familiales, probablement 20 ans auparavant, eh bien, ils étaient morts dans ce sens. Sarah, Abraham est comme mort. Le sein de Sarah est comme mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, « Comment moi, qui est aussi vieille, et mon Seigneur, nous n'avons plus cessé tout ça. Nous avons cessé tout ça depuis bien des années. C'est impossible pour lui, c'est impossible pour moi. Comment pourrais-je le faire? » Puis elle a ri en elle-même. Et l'ange a dit, « Pourquoi a-t-elle ri? Pourquoi a-t-elle pensé au fond de son cœur? Pourquoi a-t-elle dit ça? » Regardez ici, c'était le dernier signe avant que quelque chose arrive à Sarah et Abraham. Bon, j'ai prêché ici une fois et je vous ai dit que Dieu les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme. Pour le prouver, elle est descendue, ils ont fait un petit voyage et sont descendus jusqu'à Guérar et Abimelech. Ce roi philistin est tombé amoureux de Sarah et voulait l'épouser, car il était de nouveau une belle jeune femme. Mais remarquez, il devait faire quelque chose, il devait la changer. Il ne l'a pas seulement fait redevenir un jeune homme et une jeune femme, lui et elle, il n'a pas fait ça. Parce que s'il avait fait, la même chose aurait existé. Vous voyez, il serait encore, parce qu'il l'avait épousé quand elle avait environ 16 ans et qu'il n'était qu'un jeune homme. Et il avait vécu toute leur vie sans avoir d'enfants. S'il les avait fait juste rétablis, ils auraient juste fait la même chose de nouveau. Mais il devait faire quelque chose de différent. Il devait les changer pour qu'ils puissent avoir ce fils promis. Le fils promis qu'ils allaient recevoir. Mais il a dû changer tout leur système, leur faire redevenir jeunes et les changer pour recevoir le Fils. C'est la même chose qu'il s'apprête à faire. Après cela, et rappelez-vous, après que ce signe a été maintenant manifesté à Abraham et son groupe, alors la chose suivante a été ce changement. Voyez? Or, nous avons tout vu par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, ses signes et ses prodiges, étant dans sa présence pour discerner les pensées du cœur et ainsi de suite. Comme il l'a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons cela prendre place en ce moment même. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le changement du corps. Maintenant, cela montre que nous attendons un Fils. Gloire. Pas vrai? Nous ne pouvons pas le rencontrer dans ses corps. Si nous redevenons des jeunes hommes et des jeunes femmes, nous ne pouvons toujours pas le rencontrer parce que nous devons le rencontrer dans les airs. Il faut faire quelque chose depuis que nous devons changer en des jeunes hommes et des jeunes femmes. Nous devons être changés et être enlevés dans les airs pour le rencontrer. Et c'est ce qui vient ensuite, c'est l'enlèvement de l'Église et le changement du corps des saints endormis pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Oh, ce mémorial de Pâques, ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, Or, à la porte de l'Éden, l'homme a été scellé loin de Dieu. À la Pentecôte, il a été éternellement scellé en Dieu. Il n'entre plus ni ne sort, il est là pour de bon. Regardez, un seul esprit, nous sommes baptisés en un seul corps par le Saint-Esprit, pas vrai? Alors nous sommes scellés jusqu'à quand? Jusqu'au jour de votre rédemption. Il ne sort plus pour les choses du monde. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée du Saint-Esprit. Oh, quel beau passage de l'Écriture! Scellé en Christ par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, l'homme a été de nouveau contraint de prendre une décision. Est-il ressuscité ou n'est-il pas ressuscité? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose qu'à ce procès bidon, la politique et l'Église ensemble, car la politique et les religieux se sont unis, tout comme ils l'avaient fait à l'époque. Tout comme ils vont le faire dans l'avenir et le font maintenant même, la politique et la religion. Achab était un type bien, mais Jézabel, il était marié avec elle. Je ne dis pas que le président Kennedy n'est pas un homme bien, mais il est marié à ce système de Jézabel. Ce n'est pas Achab qui l'a fait, c'était Jézabel derrière le trône qui contrôlait la chose. C'est le système de Jézabel qui va causer les dommages ici. Il doit le faire parce qu'il est marié avec elle. Il doit le recevoir, il doit le faire. Il est marié avec elle. Oh là là, mes amis, ne voyez-vous pas ce que fait l'Écriture? Ne voyez-vous pas où nous en sommes en ces derniers jours? Maintenant, regardez, l'homme, après la résurrection, voyez ce procès bidon, vous l'avez remis à l'Église, sachant ce que l'Église ferait, et que s'est-il passé quand ces soldats ont eu peur et se sont enfuis? L'Église a engagé ses soldats et a reçu de l'argent pour aller dire que ses disciples étaient venus de nuit et l'avaient amené. Alors, je veux vous demander, si les disciples sont venus de nuit et l'ont amené, pourquoi n'ont-ils pas pris le vêtement qui était sur lui? S'ils étaient des voleurs et qu'ils volaient, pourquoi n'ont-ils pas pris le vêtement aussi? Mais le vêtement était resté là avec le linge sur son visage. Le vêtement tissé était là et avait reposé sur son corps. Il a traversé tout ça et il est monté à la résurrection. Rien n'avait été perturbé, juste à la façon dont il était étendu. Il était étendu de la même façon, mais il était sorti du vêtement tissé. Amen! Voyez, mais encore un procès bidon, une fausse accusation. Pourquoi ça? Il était contraint. Il était contraint de prendre une décision. L'homme devait prendre une décision. L'Église devait dire, il est ressuscité des morts ou il n'est pas ressuscité des morts. Amen. Oh, ouvrons nos oreilles maintenant. Ouvrez votre audition spirituelle. Remarquez, ça en est venu à la même chose. Les hommes essaient de suivre comme nos réunions et disent, j'ai entendu même des églises, l'Église de Christ soi-disant, qui ont dit, je vais donner 1000 $ à tout homme qui peut montrer la preuve d'une résurrection ou d'une personne qui a été guérie. Je leur ai amené des médecins. Ils ne voulaient même pas le croire. Pourquoi? Ils sont contraints de prendre une décision. Ils se sont scellés à l'extérieur avec Caïn, avec les cultes religieux. La véritable petite Église de Dieu est en minorité, mais elle a toujours avancé dans cette direction. Mais elle, combien a-t-elle pu souffrir durant ces 1500 ans d'âge des ténèbres? Ils ont dit l'Église romaine, bien sûr, l'Église romaine était d'abord l'Église pentecôtiste, l'Église catholique l'était, tout a commencé à la Pentecôte, mais ensuite elle a voulu s'organiser, et si cette petite Église pentecôtiste devait tenir encore 2000 ans, il serait pire que ces catholiques sont maintenant, ils sont rendus aussi loin du... L'autre jour, on m'a posé la question, si vous venez ici, allez-vous prêcher sur les femmes maquillées, qu'elles ne devraient pas porter de short, ne devraient pas porter ces choses-là? J'ai dit, ne me demandez pas, alors, non, monsieur, ne me demandez, allez-vous prêcher là-dessus? Ils ont dit, en quoi ça vous concerne? J'ai dit, c'est l'affaire du Seigneur et je m'occupe de ses affaires. C'est exact, exactement. Alors, j'ai juste dit, pourquoi faites-vous ça? N'y a-t-il rien d'autre à dire? J'ai dit, oui, mais qu'elle fasse cela premièrement et ensuite nous parlerons d'autre chose. Voyez, que le fondement soit posé. C'est ça le problème. Vous essayez de sauter en haut de l'échelle alors que vous devriez être encore en bas. Commencez en bas ici, nettoyez, commencez bien. Ensuite, nous pourrons bâtir là-dessus. Autrement, vous ne pouvez pas bâtir parce que tout fondement qui n'est pas bâti sur les principes de Christ va s'écrouler. La Bible, elle dit, c'est une abomination pour une femme femme de porter un vêtement d'homme. Ça n'a pas changé du tout et Dieu n'a pas changé. Il est éternel et ses pensées d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui et elles le seront pour toujours. Son esprit est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ses œuvres sont les mêmes hier et aujourd'hui éternellement. Sa rédemption est la même hier et aujourd'hui éternellement. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il n'y a pas moyen de contourner ça. Bon, la preuve du pudding, c'est de le manger. Nous le savons, pas vrai? Dieu a dit que oui. L'homme a été contraint de prendre une décision. Quelle était leur première contrainte du temps de Christ? Qu'ont-ils été contraints de faire? Ils étaient premièrement contraints de l'accepter. Il leur a montré son signe, son sceau. Il était le Messie. Comment l'a-t-il montré? Par exactement ce que la Bible a dit qu'il ferait. Il était un prophète. Il discernait les pensées dans leur esprit. Il disait, il est un démon, Belzébul. Ils ont été forcés de prendre une décision. Ils ne pouvaient pas la remettre à plus tard. Et c'est pareil pour l'Église pentecôtiste, baptiste ou presbytérienne. Le Saint-Esprit est, Christ est ressuscité et il est dans l'Église. Et il dit, cet homme baptise au nom de Jésus. Il croit qu'il n'est pas nécessaire de parler en langue pour le Saint-Esprit et des choses comme ça, que cela n'est pas le signe initial. Il croit que les femmes, nos femmes devraient porter leurs cheveux comme ça. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, pourquoi Dieu confirme-t-il que ceci est la vérité? Trouvez où c'est. Ils ont rejeté sa fonction de Messie quand il leur a prouvé qu'il était le Messie. Ils ont été contraints de dire quelque chose. Ils ont fait la même chose aujourd'hui. Ils rejettent cela et refusent de le parrainer cela. Ils s'en lavent les mains. Ils sont contraints de prendre une décision. Il n'y a pas de chemin mitoyen. Nous sommes à la fin des temps. L'homme est contraint de le recevoir ou de le rejeter. Vous devez l'accepter ou bien le refuser. C'est forcé sur l'Amérique. C'est forcé sur le Branham Tabernacle. C'est forcé sur les pentecôtistes, sur les méthodistes. C'est forcé partout. Vous devez le recevoir ou le laisser de côté. Dieu a confirmé sa parole, montrant ses signes, prouvant son ministère, montrant exactement ce qu'il est, en prouvant qu'il est Dieu. Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » C'est vrai. Mais si je fais les œuvres du Père, alors croyez aux œuvres. Voilà. Vous voyez? Ils ne peuvent rien trouver dans cela, parce que c'est vrai. Alors pourquoi ne l'acceptent-ils de pas? C'est à cause de la dénomination. Ils ne peuvent pas le recevoir. Alors ils sont maintenant contraints d'en arriver à une confrontation. Et en Ohio, il y a quelques jours à peine, les mêmes églises qui m'ont parrainé il y a un an, parce que je l'ai attaqué et que j'ai prouvé que c'était faux, il n'y en avait pas une, sinon une seule, celle de Frère Sullivan, qui voulait collaborer. J'ai dit, j'ai toujours la même main, j'ai toujours les mêmes pieds, j'ai toujours le même message. Je suis toujours Frère Branham. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit parle toujours. Le Saint-Esprit fait toujours les mêmes œuvres. Il les manifeste toujours. Mais vous êtes contraints. C'est vrai, ils sont contraints. Et le grand Saint-Esprit qui tombe au milieu d'eux et qui prononce les paroles et dit les choses qu'ils avaient dites alors. Et là encore, regardez bien en Californie l'autre jour. Je pense que je peux trouver ici, le voici. J'étais à la cafétéria Clifton au petit déjeuner. Il y avait un frère baptiste juste après que j'ai fini de mettre les églises en pièces. Je leur disais comment ils font ce qui est mal et les choses qu'ils font, rejetant Dieu. Ce frère baptiste s'est avancé pour passer son bras autour de mes épaules afin de prier. Et quand il l'a fait, il a commencé à parler en langue. Alors qu'il, là, il était baptiste, il ne savait rien à ce sujet. Quand il a eu fini, il a dit... Et une femme qui se tenait là, elle était de la Louisiane, une Française, elle a dit, ce n'est pas une langue inconnue, c'est du français. Et voici qu'une autre femme qui vient de la Suisse, de Lucerne, et qui parle français. J'ai été là-bas, elle a dit qu'elle l'avait correctement interprété. Et voilà qu'un jeune homme qui était de passage, je ne l'avais jamais vu, personne ne l'avait jamais vu, il était l'interprète pour le français à l'ONU. Il a dit, c'est tout à fait exact, a-t-il dit. Et cet homme a dit, et vous connaissez cet homme? Je vais vous dire son nom dans une minute. Il s'appelait Henry. Je vais trouver son nom de famille dans un instant. Je pense que c'est écrit là-dessus. Je ne sais pas. C'est dans la voix des hommes d'affaires, sinon. Mais, oh oui, par Danny Henry, maintenant. Je n'arrive pas à me rappeler de cette vedette de cinéma. Non, ce n'est pas Marilyn, mais Jane Russell. Le cousin de Jane Russell. Et il est venu passer son bras autour de moi pour me faire un commentaire, et voici les paroles qu'il a dit. Il a dit, ce sermon pourrait être inscrit dans le livre de l'Apocalypse. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, je veux prier pour vous, frère Branham. Il m'a entouré de ses bras. Il a commencé à parler en français. Il n'en savait rien. Et voici quelle en était l'interprétation. Il l'a noté en attendant que le document arrive en bonne et due forme et ainsi de suite. Et il pouvait lire, moi, Victor, D-E-D-O-W-X, un nom français. Je suis français et ainsi de suite. Et j'étais là quand Danny, comment il s'appelle déjà? Danny Henry a donné ce message à frère Branham le 11 février 1961. Il vit au 809 Kings Road Nord à Los Angeles, 64. Écoutez cette lecture. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Maintenant, vous voyez, je saisis bien cela. Pour une partie, ce n'est pas le cas. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Je peux saisir cela comme il faut, voyez, de ton propre choix. Moïse a fait son propre choix. Il n'était pas obligé de le faire. Je n'avais pas non plus à prendre ce sentier. J'aurais pu avoir de grands édifices là-bas, comme c'est le cas de certains d'entre eux. On pourrait me faire passer à la télévision partout. Mais qui me parrainerait pour cela, pour démolir le fondement même? Mais il y a une chose que c'est ce que je sais. Je n'ai pas à me prosterner devant quiconque, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Oui, je prêche ce que dit la Bible. Je n'ai pas à faire de compromis avec l'organisation, car je n'y appartiens pas. J'ai fait le choix. C'est exactement comme il l'a dit là-haut. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il a donné deux signes de confirmation à Moïse pour le prouver. Et Moïse a fait son propre choix, voyez. Moïse a fait son propre choix. Alors, c'est facile de comprendre cela, voyez. Tu as choisi. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Bon, ici maintenant, cet homme, regardez bien comment c'est écrit. Vous pouvez voir ce que c'est écrit avec des mots étrangers. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c'est mon chemin. Dieu soit béni. C'est mon chemin, a-t-il dit. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Il n'avait jamais entendu parler de la vision, vous voyez, de ceci. Vous vous rappelez de la vision? Une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise, voyez? Cette chose en soi, maintenant c'est ici, à partir d'ici, que je ne comprends pas. Cette chose en soi est ce, entre grandes parenthèses, qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cela fera s'accomplir. Peut-être qu'un de ces jours, dans la petite tente assise là-bas, il le fera savoir. Pourquoi? Pas parce que nous devions le faire. Pas parce que ce n'est qu'un chemin facile. Vous pouvez être populaire et avoir tout le monde qui vous tape sur l'épaule, de l'argent qui rentre de partout pour vos émissions de radio et de télévision et tout. Ils ont dit qu'ils prendraient cela pour le téléviser. Je ne crois pas que les choses de Dieu devraient être diffusées par le même canal que les choses vulgaires du monde. Je ne crois pas à tout ceci pour faire quelque chose qui n'existe pas. Je crois qu'il faut seulement laisser la chose aller et attendre. Dieu, il est Dieu. Laissez-le en faire ce qu'il veut. Nous sommes des serviteurs. Servons le Seigneur. Ne faites ce que Dieu a dit. L'homme, au milieu de tout cela, est contraint de prendre une décision. Ils ont été contraints de prendre une décision quand Christ était ici sur la terre, car il leur avait prouvé qu'il était le Messie. Pas vrai? Ils ont été contraints. Et comment l'ont-ils appelé? Belzébul, un diseur de bonne aventure. Puis par son signe, le sceau à Pâques, Dieu a prouvé qu'il l'avait ressuscité des morts. Après toutes ces autres choses, il l'a ressuscité des morts. Or, l'Église qui prétend avoir le Saint-Esprit, la preuve de Dieu pour cela, c'est que vous êtes passé de la mort à la vie, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour vous. Ça, c'est la preuve de Dieu de la résurrection. Vous n'êtes plus comme avant, vous êtes changé. Alors que vous doutiez de la parole de Dieu, maintenant, chaque parole de la parole de Dieu prononce, vous dites « Amen ». Vous voyez, il vous est arrivé quelque chose. Ça, c'est juste la première forme de résurrection, l'Esprit à l'intérieur. Maintenant, la Pentecôte. Après la Pentecôte, quand ces gens ont reçu le Saint-Esprit, l'homme a été de nouveau contraint de prendre une décision. Est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce sont des hérétiques. C'est de la folie. Ils sont dans l'égarement. Même Agrippa a dit à Paul, « Tu es fou. » Fou signifie cinglé. Et qu'est-ce que Paul a répondu? Dans la voie qu'on appelle une secte. C'est ainsi que j'adore Dieu. Il avait le sceau de Pâques. Il était là quand quelque chose est arrivé. Je suis heureux de me joindre à lui ce matin de cœur pour dire, « Paul, pourquoi? » Nous aurions prêché la même parole.
Paul leur a ordonné de se faire baptiser de nouveau au nom de Jésus, après qu'ils eurent été baptisés en d'autres termes. Il a dit, si un ange du ciel enseignait autre chose, qu'il soit anathème. Il prêchait la guérison divine. Il prêchait la puissance de la résurrection. Il prêchait Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Des visions, des puissances et des manifestations de l'Esprit l'accompagnaient. Vous devrez avoir le même message, la même chose, non pas une théologie, non pas quelques œuvres de l'Église, mais la puissance de Dieu, la Pentecôte et le même sceau. Le sceau du Saint-Esprit, le véritable sceau de Pâques de Dieu est la référence de l'homme. C'est vrai, c'est votre droit d'aînesse. C'est votre référence que vous êtes passé de la mort à la vie et Dieu agit à travers vous de la même manière qu'il l'a fait avec le Seigneur Jésus, parce que c'est votre référence. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez par tout le monde, après Pâques, après la Pentecôte, après que le sceau de Pâques a été donné de la résurrection. Qu'est-ce que c'était? La vie qui était en Christ, qui a été ressuscitée, est venue vivifier son Église et il vit dans l'Église pour accomplir les mêmes signes. J'espère que ça ne vous passe pas par-dessus la tête. J'espère ne pas vous avoir retenu si longtemps que vous n'aurez pas la joie de ce que je veux dire. Voyez, je sais que c'est difficile pour vous qui êtes debout, s'il vous plaît, seulement quelques minutes. Essayez si vous le pouvez. Je veux vous saisir ce point, mes amis. Je veux que vous voyez qu'il y a dans mon cœur ce qui s'est passé 31 ans depuis que j'ai posé cette pierre angulaire là-bas au coin. Voyez, il y a une vérité. J'ai essayé de prendre position pour elle. Il y a toutes sortes de choses qui en sont sorties. C'est vrai, mais ça a toujours été comme ça. Je lisais sur Martin Luther, il était dit, c'était difficile de croire qu'il pouvait protester contre l'Église catholique et s'en sortir. C'était une grande chose, mais la plus grande chose, c'est qu'il a pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil pour rester fidèle à la Bible. Dites ce que Dieu dit et ne dites rien d'autre. Tenez-vous, faisant strictement à ça, marchez en ligne précisément avec la décision de Dieu. Plutôt, si Dieu décide qu'il en est ainsi, restons strictement avec cela. C'est sa décision. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le sceau de la Pentecôte est la référence du croyant qu'il est passé de la mort à la vie parce qu'il a reçu la bénédiction de la Pentecôte, le sceau de la Pâque de Dieu à son Fils. Il a scellé son premier fils avec le Saint-Esprit, pas vrai? C'est vrai? Il a scellé tous ses autres fils avec le Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons ici qu'en scellant ceci en ce moment, alors que la fin des temps approche, il y a un passage ici que je devrais aborder à propos des fils, les fils de Caïn qui sont là maintenant. Ils ont été poussés au point où ils doivent prendre une décision. Vous voyez, pour eux, c'est difficile à faire, car s'ils le font, ils doivent renoncer à leur droit dénominationnel, vous voyez? Tout comme le pharisien. Vous savez, les pharisiens ont pris une décision au sujet de Jésus au moment où il a prouvé qu'il était le Messie. Et quand le Saint-Esprit a démontré que cette voie qu'on appelle une secte, cela a prouvé que le Saint-Esprit, l'homme, doit prendre une décision. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Ici, l'autre soir, j'étais sorti et je priais pour une dame qui était malade à l'hôpital. Et quand je suis sorti, j'ai entendu quelqu'un crier très fort, « Billy! » J'ai regardé autour de moi, c'était l'un de nos frères ici, il vient, Roy Slaughter, il était debout dans le corridor, c'est un petit passeur. Il a dit, « La femme de mon frère est malade, veux-tu prier pour elle? » Bien sûr, je suis allé, il y avait une autre dame âgée d'environ 60 ans étendue là, et on dirait que c'était son fils qui était assis là, après leur avoir parlé un peu. J'ai dit, « Pouvons-nous, nous allons prononcer quelques mots de prière. » Elle a dit, « Tirez le rideau. » J'ai répondu, « Très bien. » J'ai demandé, « Êtes-vous croyant? » Elle a dit, « Je suis méthodiste. » J'ai dit, « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » J'ai dit, « Êtes-vous croyant? » Elle a dit, « Je suis méthodiste. Nous sommes méthodistes. Tirez tout simplement le rideau. » Je n'ai pas fait, j'ai prié de toute façon et j'ai prié pour elle et j'ai prié pour que Dieu la sauve. Mais voilà, c'est ça. Vous voyez, vous n'êtes pas chrétienne, vous êtes méthodiste. Voyez-vous, vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un méthodiste. Votre propre témoignage en dit long. Miséricorde, bonté, comment arrivez-vous à vous éloigner autant de la Bible? Les croyants et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Ça montre que vous n'êtes pas le chrétien. Êtes-vous chrétien? Je suis membre de l'Église du Christ. Ça montre que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes un chrétien parce que vous êtes un croyant. Et si vous êtes un croyant, Jésus a dit dans Marc 16, « Ces signes accompagneront ceux qui auront reçu le sceau de Pâques jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai, vous êtes un croyant. Et les gens sont contraints. Ils y sont contraints maintenant. La chose est en action. Et ils sont contraints de le recevoir ou de le condamner. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le condamnent. Mais ils n'ont pas pu le faire là-bas à l'âge de la Pentecôte parce que la Pentecôte retourne tout droit en arrière et s'organise. Ils arrivent et s'organisent dans la même chose qu'ils viennent de sortir. La Pentecôte est sortie. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui arrive aux croyants. mais ils en font une organisation et ils sont retournés faire la même chose qu'ils faisaient après avoir combattu avec ardeur pour en sortir. La même chose que la nation et la politique ont fait. Ils sont venus ici à cause de la liberté de religion. Ils ont quitté leur doctrine de la vieille prostituée catholique et ils sont retournés aveuglés par la politique. Ils ont élu l'un de leurs hommes clés, un millionnaire devenu millionnaire grâce au whisky et de la racaille et des choses du monde. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire et qu'ils l'ont placé sur le trône à la Maison-Blanche avec le système catholique derrière cela. Ça ne fait pas encore 6 mois qu'il y est et cela prouve déjà que c'est vrai. Et l'Église pentecôtiste est sortie des organisations et les ont traités de froides et formalistes, et leurs femmes, la façon dont elles se comportaient, et l'homme, la façon dont ils se comportaient, et la Pentecôte s'est organisée et ont pris l'esprit qu'ils sont retournés. Pourquoi? Pour que la vraie Église de Dieu puisse être manifestée dans sa puissance et dans la gloire. Vous êtes contraints d'y croire. Vous êtes contraints de l'accepter ou de le renier. Gloire à Dieu. Ce choix est devant vous et vous ne pouvez pas le nier. Vous devez dire oui ou non. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Oui, monsieur, oui. Ils sont contraints. Il n'y a pas de position neutre. Le monde entier doit le recevoir ou le renier. Et c'est comme ça aujourd'hui. Maintenant, nous découvrons qu'après Pâques, Jésus, dans Marc 16, leur a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Ces signes accompagneront. » Et l'homme, Dieu, a alors contraint les gens à prendre une décision. Ils ont dû voir que ces gens avaient quelque chose. Et cela dura 306 ans après la mort du Christ. Alors, qu'est-ce qui est entré dans l'Église? Ils étaient catholiques. C'est exactement vrai. Les catholiques pentecôtistes. Le mot catholique signifie universel. Toute l'Église est universelle. Ils étaient pentecôtistes. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à faire entrer l'homme d'affaires, à convertir les autres, à les faire entrer. Ils avaient des idées de la haute société. La première chose que vous savez dans la Bible, nous avons découvert dans notre enseignement, lorsque nous avons enseigné sur les âges de l'Église, que Jésus lui avait dit avant que cela n'arrive, environ 200 ans, qu'il y aurait une doctrine, ou plutôt que ce serait premièrement les œuvres des Nicolaïtes, et puis cela deviendrait finalement une doctrine. Et quand ils ont fait ça, il a dit « je hais ça ». Et qu'est-ce que ceux de la Pentecôte ont fait? La haute classe empesée de la Pentecôte s'est organisée et a formé l'Église catholique, la première mère des organisations. La petite minorité a été forcée d'aller d'un des côtés, et c'est comme ça depuis lors. 1500 ans se sont écoulés et cette petite minorité a survécu. Amen. Quelqu'un a dit l'autre jour, il a dit, « Pensez à l'Église catholique, au grand nombre de batailles auxquelles elle a survécu. » De grandes batailles? Bien sûr, avec la loi de son côté, avec la nation de son côté, avec la politique de son côté. Pensez à cette petite de la Pentecôte qui n'avait rien d'autre que le Saint-Esprit, mais qui a survécu. Et ici même ce matin, c'est une preuve vivante qu'elle vit encore. Et qu'elle vivra pour toujours. Pas l'organisation, les croyants pentecôtistes, les vrais, c'est vrai. Maintenant, après la Pâque, ceci a été fait, contraint de prendre une décision. L'homme doit prendre une décision et il doit prendre la première. Maintenant, je passe beaucoup de ces commentaires, pas de position neutre. Et les fils de Satan seront scellés en ces derniers jours. Il y a un temps maintenant dont la Bible a parlé que tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient pris la marque de la bête. Et nous savons que la marque de la bête est l'incrédulité. La première fois, eh bien, où direz-vous que la marque de bête a commencé? Dans le jardin d'Éden. La marque de la bête et le sceau de Dieu ont été apposés dans le jardin d'Éden. Exactement. C'est en passant par la Pâque, car la mort d'Abel a engendré Seth. C'est vrai? Caïn était le fils de Satan. Il était le fils de la bête qui a séduit Ève. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il était le fils de Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis une marque sur lui et l'a chassé de la présence de Dieu. Pas vrai? Et il lui a donné une femme, non pas de l'héritage de Dieu, mais il lui a donné une femme de la terre de Nod, une terre d'ailleurs. Et qu'a fait l'organisation? Il a quitté la vraie croyance de la Pentecôte lorsqu'elle s'est organisée et il a pris une femme dans l'organisation. C'est tout à fait vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez comment la femme de la Pentecôte a commencé à agir. Et ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, regardez à son action. Et elle a fait volte-face et elle essaie de la détruire maintenant. La chose même qu'elle défendait au départ, elle essaie de la détruire et de l'étouffer. Parce que c'est à l'encontre de ses credos, comme c'était là-bas. Mais elle est de nouveau contrainte à prendre une décision. Elle doit le faire. Dieu, aide-moi et mes frères qui se tiendront avec moi. Aide-nous, Dieu. Aide-nous à nous tenir là courageusement. Peu importe si c'est le sang de martyr, restez là. Je dois combattre. Si je dois régner, augmente mon courage, Seigneur. Quand je vois son Saint-Esprit se mouvoir parmi les gens et faire les mêmes choses, je sais qu'il est ce même Jésus-Christ ressuscité. Amen. Ça règle la question pour moi. Voyez? Amen. Dans Romains 4, 25, la fin qui parle d'Abraham, il a été livré pour nos offenses et a été ressuscité pour notre justification. Éphésiens 4, 30, le Saint-Esprit est le sceau de Pâques de Dieu qui nous scelle pour l'éternité. Amen. Nous scelle pour l'éternité. Le Saint-Esprit de Dieu, oh, êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux pour Pâques? Êtes-vous heureux de cette expérience? Scellé, enfermé avec Dieu dans un lieu secret, enfermé avec Dieu par sa grâce divine, scellé jusqu'au jour de notre rédemption. C'est ça le véritable, le vrai saut de peur. Quelle heure est-il? Midi. Il est midi moins 5 minutes. Vous y croyez? Vous y croyez? Inclinons la tête un instant. Notre Père céleste, quoi que je dise, et pourtant, l'homme devrait croire cette parole parce qu'elle est écrite ici. Je prie pour que tous les hommes te reçoivent maintenant comme leur sceau de Pâques, les prémices de la résurrection, sachant qu'ils sont passés de la mort à la vie, là où la mort a foulé autrefois, maintenant la vie prend sa place. Je prie pour que tu montres à cette assemblée ce matin que tu es toujours Jésus, que tu es toujours celui qui accomplit les miracles et qui accomplit la chose. Et sachant, comme je viens de dire, comme cela a été confirmé au Père Abraham, que cet ange se tenait avec son dos tourné à l'audience, ou plutôt à Sarah, et a dit ce qu'elle disait et pensait. Oh Dieu, nous l'avons vu à maintes et maintes reprises. Nous avons vu la confirmation, le placement du Fils, l'attribution du nom. Nous avons vu toutes ces choses se produire, Seigneur. Et nous savons que nous sommes au temps de la fin. C'est une part. Beaucoup sont debout avec des crampes aux jambes. Et maintenant, Père, tout ce que je pourrais dire ne représenterait rien après que tu auras parlé, à moins que ce ne soit pas en accord avec ce que tu dis. Et si j'ai prononcé ta parole, alors, Père, je crois que tu es le Dieu qui confirmera cette parole. Je prie que tu l'accordes. Que ton esprit, Seigneur, vienne au milieu des gens et que ceci leur soit confirmé. Alors que nous avons la tête inclinée partout, il y a peut-être de la maladie ici, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, qu'il y a de la maladie parmi les gens. Je veux savoir. Combien ici ne sont pas de cette ville et qui sont malades? Levez la main. Ceux qui ne sont pas de la ville. Eh bien, ils sont tout simplement partout. Très bien, vous pouvez lever la tête. Je vais vous demander pour que vous puissiez voir tous ceux qui ne sont pas de la ville et que je ne connais pas, ceux qui ne sont pas de la ville et je ne connais pas, levez la main et dites, je suis malade. Levez les mains partout maintenant, que je puisse me faire une idée générale, par ici, juste dans ce coin-là, tout au fond, très bien. Maintenant, voici un défi. Est-ce la vérité que j'ai prêchée? Si c'est le cas, Dieu est tenu de l'accomplir. S'il ne tient pas ceci, il n'y a pas de résurrection. S'il le tient, c'est l'assurance de la résurrection. Cela montre que le sceau de Pâques, qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Alors condamner cela serait blasphémé contre le Saint-Esprit et c'est impardonnable. Maintenant, si le Saint-Esprit vient à cette réunion, j'ai pensé que nous pourrions peut-être faire lever les gens, mais nous ne pouvons pas avoir une ligne de prière. Regardez ici, c'est simplement comblé ici. Les petits-enfants tout autour de l'hôtel et partout, on ne peut pas avoir une ligne de prière. Mais écoutez, je veux vous demander quelque chose. Est-il un seul endroit ou est-il omniprésent? Il est partout. Maintenant, comment pourrais-je vous connaître, ceux qui ont levé la main alors que je ne vous connais pas? Et quand vous êtes des inconnus d'ici, je ne veux pas des gens du tabernacle, je vous verrai plus tard. Mais juste les gens que vous puissiez voir, que ce sont des gens de l'extérieur de la ville que je ne connais pas, puisse le Saint-Esprit parler, si c'est vrai ou pas, puisse-t-il parler? Alors, mes paroles seront une chose, et si ces paroles de Dieu Dieu tiendra cette parole. Maintenant, souvenez-vous, les pentecôtistes, les vrais authentiques croyants de Dieu, ont toujours été minoritaires. Et c'est une bande dont on rit et dont on se moque. Et les gens ne sont pas prêts à prendre ce chemin. Quand ils étaient luthériens, Dieu leur a donné la justification, ils ont été persécutés, on s'est moqué d'eux, ils ont même été martyrisés. Mais Luther a continué sans hésitation, ils l'ont organisé après la mort de Luther. Non, Luther n'a pas organisé l'Église. Mais, non, monsieur, mais les gens après lui l'ont fait. Wesley n'a jamais rien organisé. Non, monsieur, c'était les gens qui le suivaient. Et maintenant, après, les pentecôtistes, ils entrent, ils ont organisé ce dont ils venaient de quitter. Mais c'est là que nous arrivons. Vous voyez, nous retournons directement dans nos credos. Et Dieu, la minute même, je peux le prouver par la Bible, que toute Église qui devient une organisation, elle prend la marque de la bête. Pas les individus dans l'Église, mais le système de l'Église. Parce que le système de l'Église est catholique. Catholique rend tout cela universel, tout y faire rentrer, tout. Vous voyez, je peux prouver par le chapitre 17 de l'Apocalypse qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient des prostituées, des impudiques. Chaque organisation se comporte, elle se comporte en prostituée. Et regardez exactement ce qu'elle a fait, exactement comme sa mère l'a fait. Donc, elle est rapide. Maintenant, pas les gens de l'Église. Les méthodistes sont des personnes authentiques. J'espère que vous obtiendrez la bande où le Seigneur a parlé et a montré ce qui arriverait à cette Église au cours de cette grande période qui est juste devant nous, alors que le jugement est sur le point de frapper la terre. Et regardez ce qui va arriver à l'Église. Mais son mari était mort, vous savez. Mais quand Élie était veuve, quand Élie est revenu de son voyage dans le désert, elle était veuve. Élie lui a été envoyé. Elle était heureuse d'entendre ce prophète. Alors, après la mort de son mari, son organisation a été mise dans la Confédération des Églises. Elle a vu où elle en était. Et ce que le prophète avait dit, c'était réalisé. Elle était bien disposée. Dieu l'aimait encore. Et le prophète est descendu là et l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain et que la famine soit terminée. Oui, c'est vrai. Quelle belle image de la venue du Seigneur juste là en Élie. Parfait. Et rappelez-vous, ce message dans les derniers jours doit être apporté par Élie, le prophète. Son esprit sur l'Église. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez ce que veut dire le mot Élie? Très bien. Maintenant, prions. Et que le Saint-Esprit... Je veux vous demander quelque chose maintenant. Voyez, Dieu est-il un Dieu vivant? Est-il présent? Alors, s'il l'est, je veux vous demander quelque chose. Maintenant, après que j'ai parlé, combien ici qui croient que c'est la vérité? Y en a-t-il ici qui voudraient dire, « Je ne suis pas chrétien, frère Branham. J'aimerais l'être. Priez pour moi. Je ne peux pas faire un appel à l'hôtel ici parce que je ne peux pas. Levez la main et dites, priez pour moi. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Que Dieu vous bénisse. Vous. C'est très bien que Dieu vous bénisse tout autour, partout, d'accord? Bien, très bien. Maintenant, vous avez le droit, après un message comme celui-ci, vous avez le droit de me dénoncer et de dire, « Frère Branham, vous nous avez prêché quelque chose quand ces derniers jours, vous avez dit que le dernier signe était quand il a accompli, qu'il a montré qu'il était Dieu. » Et j'ai entendu un prédicateur juif l'autre jour qui venait d'être, j'étais par mon message sur l'offrande de la vache rousse. L'homme est venu, il a reçu Christ. Il est sorti d'une église qui avait été élevée dans une lignée de rabbins pendant des années, depuis 400 ou 500 ans. Il y a longtemps, c'était tous des rabbins. Et l'homme a entendu mon message, il s'est glissé dans une réunion et a attendu cette vache rousse. Il a été converti au christianisme grâce à cela. Il s'est tenu dans l'église l'autre jour. Il a dit, « Quiconque ne croirait pas qu'il y avait trois dieux au lieu d'un seul, il avait cru en un seul dieu jusqu'à ce moment-là. » Il a rétrogradé au lieu de faire autre chose. Il a dit que quand Abraham, quand les trois hommes sont venus, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient allés vers Abraham. Maintenant, je veux le regarder juste vous apporter quelque chose dont vous vous souvenez. Lorsqu'Abraham a vu trois d'entre eux ensemble, il a dit non pas mes seigneurs, mais mon seigneur. Mais quand Lot, son frère dénominationnel, en a vu deux d'entre eux, il a dit mes seigneurs. Ça montre où vous en êtes, vous voyez. Lot les appelait ses seigneurs. Abraham appelait trois d'entre eux mon seigneur. Il n'y en avait qu'un seul parmi eux qui était seigneur. C'est vrai, Elohim. Et les deux anges qui n'étaient que des messagers sont descendus là, et Lot, ce frère, ce grand trinitaire, voulait les appeler ses seigneurs. Vous savez, entrez donc, vous voyez dans quel état il s'était mis, parce qu'il était là-bas avec les choses du monde. Sa femme et toutes ses filles là-bas étaient comme le reste du monde et leur église froide et formaliste. C'est comme ça qu'on devient. Qu'a fait l'ange? Il a prouvé qu'il était le Seigneur Dieu. Maintenant, ce Saint-Esprit dont je parle maintenant, laissez-le prouver qu'il est toujours le Seigneur Dieu, qu'il prouve qu'il était l'unique. Maintenant, priez. Maintenant, voulez-vous, laissez-moi le redemander. Combien d'entre vous ici, prenons une petite section à la fois, combien d'entre vous ici, vous dites que vous êtes malade, que je ne vous connais pas, ne vous connais pas, que vous êtes des étrangers, que vous voulez que Dieu vous guérisse? Levez la main. Maintenant, regardons parmi cette foule. Très bien, très bien. Maintenant, baissez les mains une minute. Laissons Dieu parler. Maintenant, je lève ma main, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Maintenant, s'il est toujours Dieu, ne fera-t-il pas la même chose? La femme qui toucha son vêtement, certaines d'entre vous, les femmes, ou certaines d'entre vous qui ont levé la main, il y a une femme quelque part, je crois, la petite dame au fond, vous avez levé la main, très bien, vous l'aviez levée, d'accord, je suis un étranger pour vous, je ne vous connais pas, très bien. Vous allez voir s'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de votre infirmité. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, vous m'êtes inconnu, je ne sais rien de vous. Dieu, lui, vous connaît, et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit le Christ ressuscité, qui vient ici et me donne une résurrection temporaire par mon esprit, que mon esprit se retire maintenant et son esprit entre, alors c'est pour que vous sachiez s'il est vivant ou pas. Bon, je ne vous connais pas, c'est moi et mon esprit, on ne vous connaît pas, mais il vous connaît, mais il veut emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis si heureux de lui prêter, de lui donner tout ce qu'il peut en tirer. Si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici, me croirez-vous? Vous allez croire? Vous avez des varices. Si c'est exact, levez la main. Vous avez plus que ça. Vous avez une hernie, c'est vrai. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes de Lima, Ohio. Votre nom est Mme Stoddard, c'est exact. Votre mari est derrière vous, c'est exact. Vous croyez que Dieu peut me dire quel est son problème? Il a mal au dos, il souffre au dos. Oui, c'est vrai. Levez la main, monsieur. Croyez-vous? Quelqu'un d'autre a levé la main là-bas, par ici, ici, cette dame là-bas. Très bien, je ne vous connais pas. C'est votre mari qui est juste à côté de vous. C'est ce que vous voulez. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si c'est exact, levez la main. C'est vrai? D'accord. Croyez au Seigneur, mais ne doutez pas du tout. J'ai vu quelqu'un venir de loin, mais je ne pouvais pas identifier où cela se trouvait. Oui, c'est l'homme assis là, je le vois maintenant. C'est aussi un étranger pour moi aussi. Vous avez des problèmes de vésicule biliaire, des problèmes de sinus. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de Georgie, un endroit appelé Huber Mill, en Georgie. Très bien. Croyez maintenant et rentrez chez vous et soyez guéri. Croyez-vous de tout votre cœur? Il y a un juste ici à l'arrière, derrière, cette lumière se tient au-dessus de la personne et il prie pour un être cher qui a un cancer, qui n'est pas sauvé. Croyez, ayez foi et ne doutez pas. Je ne fais que regarder. Ici, elle est par ici. La dame qui a la tête baissée en train de prier. Elle a des problèmes avec ses pieds et ses genoux. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Si nous sommes des inconnus, levez la main. Retournez à votre maison et dans le New Hampshire, c'est de là que vous venez. Croyez, le Seigneur vous guérira. Une dame assise là-bas avec la petite fille qui prie pour elle, avec des problèmes aux reins, assise au fond. Elle vient aussi de Georgie, Mme Carlson. Si vous croyez de tout votre cœur, l'acceptez-vous? D'accord? Alors, rentrez chez vous, soyez guéris. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Si nous sommes inconnus l'un à l'autre, faites signe de la main, madame. C'est vrai. Il y a un autre assis, juste ici, un homme. Il vient aussi de Georgie. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu venir de ce pays de la pêche. C'est vrai, il a des problèmes avec son foie. C'est vrai, et de l'arthrite. Il est sur le siège à l'arrière. Croyez-vous de tout votre cœur, monsieur? Très bien, retournez-y et soyez guéri. Il y a quelqu'un à côté de vous, une dame, tout au fond, dans la dernière rangée. Non, ce n'est pas pour elle, elle prie pour son fils. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre fils, madame? Je suis un étranger pour vous, mais Dieu vous connaît. Des ulcères et un problème mental. Et il n'est pas ici, Dayton, Ohio. Si c'est exact, levez la main. Maintenant, croyez. Savez-vous qu'il vit? Est-il le même Jésus hier, aujourd'hui, éternellement? Il y a au moins 8 ou 10 personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. Est-ce que c'est vrai? Maintenant que le Dieu du ciel qui est présent guérisse et rétablisse ces personnes, eh bien, cela vient de l'onction du Saint-Esprit, Papa de moi. Que le Dieu qui peut discerner les pensées de l'Esprit et se prouver lui-même qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour éternellement, laissez-le venir guérir les malades. Il est Dieu pour toujours. Vous croyez cela? Maintenant, combien veulent le croire maintenant et l'accepter comme sauveur et guérisseur et comme baptiseur et le roi qui vient? Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Comment? Le sceau de Pâques. L'infaillible sceau de Pâques. Quelle est la prochaine étape? La transformation de ce corps pour rencontrer le Fils qui vient. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Vous pouvez avoir tous les papiers scellés que vous voulez, mais le vrai sceau de Pâques est le Saint-Esprit dans le cœur humain. L'acceptez-vous? Croyez-vous en sa résurrection? Croyez-vous qu'il est vivant pour toujours? Croyez-vous qu'il est ici? L'acceptez-vous maintenant comme votre sauveur, comme votre guérisseur, comme votre Dieu, comme votre roi qui vient? Croyez de tout votre cœur. Comme ces mouchoirs, je prie sur eux. Dieu, au nom de Jésus-Christ, beaucoup de gens l'éloignent. Je crois qu'ils ont pris du corps de Paul, des mouchoirs et des linges, et ils ont été guéris. Vous croyez cela? Maintenant, combien d'autres malades y a-t-il ici? Bon, les gens du tabernacle et ceux de ce quartier-ci. Ici, maintenant, levez la main, ceux d'ici. Croyez-vous qu'il est ici? Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? Maintenant, attendez. Pourquoi attendons-nous pour quoi que ce soit d'autre? Il est ici. Alors, agissons en conséquence. Charlie, qu'en penses-tu? Amen. Alléluia. Oh, cela doit arriver. Je ne peux pas guérir personne. Je ne peux pas le faire. Il n'y a rien en moi pour guérir. Mais si vous acceptez cet esprit qui est sur moi maintenant, il ne pourrait pas y avoir assez de démons en enfer pour que vous en doutiez encore. Et vous devez guérir. Je ne suis pas le guérisseur, il est le guérisseur. Je ne peux pas voir des visions, il est celui qui parle. C'est seulement mon corps qui l'utilise. Maintenant, ce même Dieu a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. » Combien y a-t-il de croyants ici? Vous êtes sûr d'être croyant? Eh bien, il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » Pas vrai? Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres. Et laissez-moi prier pour chacun d'entre vous. Ô Dieu, ô frère, il faut que quelque chose se produise, il faut que quelque chose se passe. Ô grand sceau de Pâques! Non pas le lys dans le pot, mais le lys dans la vallée. Toi qui as parlé à travers ce garçon l'autre jour, tu es venu par ta parole. Tu as manifesté que tu es la vérité. Tu es la vérité, Seigneur. Tu es la résurrection. Tu as dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Je suis, non pas je serai, j'étais, je suis maintenant la résurrection de la vie. Celui qui a accompli ces miracles est celui-là même qui a prêché cette parole. La Bible ne dit-elle pas que la parole du Seigneur est venue au prophète? Qui était celui de ce temps-là où il allait pour découvrir où se trouvait la véritable révélation de Dieu? C'était le prophète. Et comment savait-il qu'il était prophète? Parce qu'il avait le signe d'un prophète, le sceau du prophète. Qui est le prophète alors? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a écrit la parole, le Saint-Esprit. Pas moi, lui, c'est lui. Je viens de vous le dire, il vient de prendre mon corps, il prend ma langue, il prend mes yeux. Parce qu'il savait que je lui soumettrais, alors il est venu et m'a fait faire cela. Alors ce n'est pas moi, c'est lui. Et ce n'est pas moi qui se trouve ici avec vous, c'est lui qui se trouve ici avec vous. Il est la résurrection et la vie. Oh Dieu, Dieu, croyez-le, vous tous, croyez en lui, il est ici. Maintenant, je veux que chacun de vous qui êtes ici ayez foi en votre propre prière. Je veux que vous ayez foi en ce que je vais dire. Je vais lui demander de vous guérir. Je vais lui demander de pardonner chaque péché. Quel est le péché? L'incrédulité. Si vous, certains d'entre vous ici, n'avez jamais été baptisés au nom de Jésus-Christ, le baptisteur est prêt. Et si vous ne l'avez pas fait, la seule chose qui vous retient, c'est l'incrédulité. Pourquoi accepter cela plus longtemps? Renoncez-y. Ne voyez-vous pas l'Esprit de Dieu? Ne voyez-vous pas les œuvres de Dieu? Éloignez-vous de ces organisations. Entrez dans le Seigneur Jésus, puis retournez dans votre organisation et dispersez la lumière. Ne vous inquiétez pas, vous n'y resterez pas très longtemps. Ils vont vous faire. Qu'est-ce que ça va faire? Cela va faire en sorte que votre propre Église en viendra où elle devra prendre une décision. Quand je suis venu de l'Église baptiste et que je me suis tenu ici, les Églises ont dû prendre une décision. Alors, ils m'ont mis à la porte. C'est vrai, je m'attends à me faire mettre à la porte encore et encore et encore. Mais un jour, je serai reçu quand je traverserai le Jourdain. C'est vrai, vous allez être mis à la porte. Mais quand vous traverserez le Jourdain, il y a une pensée qui me réconforte et qui réjouit mon cœur. Je n'aurai pas à traverser cette rivière tout seul. C'est un fait. Un jour, je descendrai à la rivière. Je ne descendrai pas. Il sera là. Quelqu'un m'attendra là. M'accueillir. Je serai fidèle. Ici, il a parlé par sa parole. Il la parle à travers tout. Tout fonctionne parfaitement par la parole. Personne ne peut rien dire contre ça. C'est placé devant les gens. Bientôt, cette voix sera réduite au silence. Église, écoutez-moi, écoutez-moi. Bientôt, il ne sera plus ici. Ça ne sera pas parlé. Alors, vous vous demanderez. Mais pendant que vous pouvez entendre, obéissez au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ces gens prient les uns pour les autres. Quand tu es ressuscité le matin de Pâques, tu as prouvé que tu étais le Messie. Tu as prouvé que tu étais le Messie avant ta résurrection. Tu as prouvé que tu étais par le signe du Messie, le sceau de Dieu qui était en toi. Tu as été scellé avec Dieu pour ne rien faire d'autre que ce qu'il a dit. Tu avais dit, « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. » C'est de garder sa parole. Pour être agréable à Dieu, nous devons croire sa parole et garder sa parole. Ainsi, Père, il en est de même aujourd'hui que chaque fils ou de Dieu, chaque fille de Dieu, afin d'être agréable à Dieu, ils doivent garder la parole de Dieu. Et Dieu, nous gardons ta parole maintenant en nous imposant les mains les uns aux autres. Et je prie pour cet auditoire. Après avoir entendu la parole prêchée et vu les visiteurs lever les mains, vu le grand Saint-Esprit sortir, et leur dire les pensées même de leur cœur et qu'ils sont, d'où ils viennent, ce qui arrive, comment les gens peuvent-ils encore douter? Dieu, c'est une grande récompense pour ceux qui sont restés debout ce matin autour des murs de cette grande église et leurs membres endoloris, les petites mères avec leurs enfants et les pères et les vieillards et tout le monde qui attendent, qui veillent, qui observent pour voir s'il y a un signe du Dieu vivant. Puis il le voit venir sur la scène et prouver qu'il est Jéhovah, qu'il est Jésus, celui qui est ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts parce qu'il en a brisé le sceau. Il a brisé le sceau de la mort, il a brisé le sceau du tombeau, il a brisé le sceau de l'enfer, il a brisé le sceau de la tombe, il a ouvert le sceau de l'arbre de vie et nous a baptisés par son Saint-Esprit dans cet arbre de vie et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il nous a donné la commission de nous imposer les mains les uns aux autres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Dieu notre Père, il doit en être ainsi. Je déclare par la puissance de l'Évangile, par le Dieu du ciel qui m'a ordonné et envoyé prêcher l'Évangile, par le Dieu qui a écrit la parole, par l'ange qui est présent pour confirmer la parole. Je dis cela à cause de la foi que j'ai dans les gens. Que le démon devra quitter toute maladie ici. Toute personne affligée, la puissance de Dieu va les relever pour qu'ils retrouvent une bonne santé et la force en commémoration de cette réunion de Pâques. Sors, Satan, tu es vaincu. Jésus t'a conquis il y a 1900 ans et tu es vaincu. Sors de ces gens, au nom de Jésus-Christ. Très bien, Dr. Nelson. Amen. Très bien, frère Neville. Combien d'entre vous croient? Levez les mains. Combien d'entre vous disent, dites avec cela, j'accepte maintenant que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu ressuscité, il est mon sauveur, il est mon roi, il est mon guérisseur. Je suis maintenant, je suis sauvé, je vivrai pour celui qui est mort pour moi. Je vais partir d'ici dans une nouveauté de vie pour aller de l'avant et faire de mon mieux pour celui qui est ressuscité pour moi. Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Tous ceux qui vont accepter cela sur la base de l'expiation. Maintenant, rappelez-vous qu'à un certain moment, Satan vous avait enveloppé. Mais Jésus a tiré cette chose vers le bas comme s'il arrachait un épi de maïs. Il l'a renversé. Et ce qu'il a fait, il a exposé Satan. Et quand il est ressuscité le matin de Pâques, alléluia, il a triomphé sur le diable, sur la maladie, sur la mort, sur toute puissance de l'ennemi. Et l'ennemi n'a plus de puissance. Il n'est qu'un bluff. S'il réussit à vous bluffer, d'accord. Mais s'il ne peut pas vous bluffer, alors vous n'allez pas accepter son bluff. Maintenant même, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant même, vous pouvez être rempli de son esprit. Maintenant même, vous pouvez être guéri si vous ne voulez pas accepter son bluff. Quiconque le veut, qu'il vienne boire aux eaux de la source de vie librement. Si vous y croyez, levez-vous, chacun d'entre vous. Levez vos mains et recevez le Saint-Esprit et la puissance de sa guérison au nom de Jésus. Thank you.